Bien, bonjour à toutes et tous et merci d'être là. Donc pour celles et ceux qui sont trempés dans filles, on est ici sur les alliances avec et pour la nature. Faut encore sortir. Merci beaucoup. Donc c'est un petit amphi, on va se tenir chaud. C'est un plaisir d'animer cette discussion pour la revue Esprit, donc à l'occasion de ces rencontres dont la revue est partenaire depuis, c'est la deuxième année. On a fait ce mois-ci un numéro sur les consciences de l'écologie. Et je fais un peu la pub, non pas de moi, mais de la revue qui est un collectif, j'en reparlerai, en disant qu'il y a des petites cartes là. Alors, c'est surtout qu'il y a une offre spéciale avec un abonnement moins cher et le premier numéro à 5 euros. Et puis par ailleurs, il est à la librairie. Voilà, je vous le dis aussi si vous souhaitez y regarder un peu ce qu'on fait. Et puis, c'est un mensuel donc. Pour la petite histoire, la couverture, on ne l'a pas fait exactement exprès, mais c'est issu d'une esquisse de Nicolas Ledoux. Alors, il n'est pas bourguignon, mais enfin, c'est pas très loin, la Franche-Comté. Café Arquessenon. Et en fait, ça, c'était la maison des directeurs de Lalou. Vous voyez, il y a un lien quand même. On en parlera peut-être, du coup. Mais voilà, on poursuit l'ancrage de Franche-Comté et de Bourgogne jusqu'au bout. Le thème donné aux rencontres cette année, et je voudrais commencer par ça, c'est les tensions. On a beaucoup parlé de tensions, de difficultés d'écologie majoritaire ou minoritaire. Et parler de nature là-dedans, c'est pas une question facile. Et même si le terme alliance laisse penser à quelque chose d'un peu consensuel, je pense ce dont on va parler aujourd'hui, c'est justement aussi de dissensus ou de questionnement et de tension, y compris autour de cette idée d'alliance avec ou pour la nature. Et depuis là, le début des rencontres, je me permets juste un ou deux mots. On a beaucoup parlé d'écologie populaire, on a beaucoup parlé d'écologie qui pourrait ou qui voudrait être majoritaire, de rejet de l'écologie, ou en tout cas de rejet de certains pans de l'écologie. On a aussi beaucoup parlé, je trouve, dans les différentes tables rondes, de justice sociale, d'injustice, d'inégalité. J'ai beaucoup entendu parler de classe populaire et de classe écologique, le dernier terme étant celui de Bruno Latour, on y reviendra peut-être. Et beaucoup de cette idée de... c'est ce que André Gorz appelait notre écologie et la leur, mais de différents types d'écologie, de différentes postures. Et si je dis ça... C'est pas sans lien avec le sujet d'aujourd'hui, puisque le terme d'écologie lui-même est très vaste. Les approches, les contenus ou les pratiques, il a parfois une connotation négative, mais c'est un peu comme le terme woke, en fait. Ça renvoie à plein de choses pas forcément similaires qu'on met ensemble. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de parler du terme de nature, puisqu'en fait, on l'y associe, on le met dans l'écologie, on le met à côté, on le met peut-être au-dessus. Et puis, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce que c'est aussi très vaste. Est-ce que l'écologie, c'est forcément la nature ou laquelle? Je pense que c'est un peu ce dont on parlera aujourd'hui. Et je redis encore un ou deux mots sur la revue Esprit, justement, parce que donc c'est une revue qui existe depuis 1932 et qui a traité de l'écologie. Et il y a eu quelques numéros ces dernières années. Il y a eu Les Mondes de l'écologie en 2018, coordonné par Lucille Schmitt, qui est ici. Il y a eu L'économie contre l'écologie en 2020, dirigé par Bernard Perret. La démographie des communs par Édouard Jourdain en 2022. Merleau-Ponty et l'Anthropocène en cette année, dirigé par Guillaume Leblanc. Et puis donc ce mois-ci, Conscience de l'écologie. Et le numéro, je le dis en deux mots, partait d'une série de réflexions qu'a mené un groupe de travail au sein de la revue, qui est entièrement partie, en fait, même si c'est des réflexions évidemment anciennes, mais de la situation de l'été 2024 et de la dissolution, des élections, de l'extrême droite qui, après avoir occupé une place médiatique certaine, approchait aussi d'une place éventuellement... institutionnelle certaine, et parmi les chantiers qu'on a mis en œuvre à la revue, et des personnes comme Jean-Claude, j'y reviendrai, y participaient à ces discussions, l'écologie était un des thèmes. Et on a choisi dans ce numéro de faire une des briques de cette réflexion qui était de revenir sur des penseurs et des pensées un peu précurseurs de l'écologie, depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, évidemment en actualisant leurs pensées, avec des gens dont on a parlé d'ailleurs ici même hier, mais voilà, Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Illich, Gorz, évidemment. Et ce qu'on a essayé de faire dans ce numéro, c'est ne pas chercher à refonder ou à recréer un contrat social nécessairement ou à réfléchir à une théorie politique écologique, mais à réfléchir à un ensemble de pensées ou à des pensées instituantes, c'est-à-dire l'écologie comme un ensemble de pensées qui crée de l'institution, qui crée des rapports à l'institution et aux politiques. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que envisager l'écologie comme ça, comme on l'a fait donc avec les personnes dans le dossier, ça a amené en fait nécessairement à parler de l'institution et de la nature. Et dans le dossier, vous pourrez aller voir, Catherine Larère, il parle du rapport à la nature d'André Gorz. Vous avez un texte de Patrick Chastenay sur Bernard Charbonneau qui parlait beaucoup du sentiment de nature comme un sentiment humain qui relie à la nature. Vous avez des penseurs anarchistes aussi, Élisée Reclus qui parlait de conscience de la terre. Et je pense que voilà, c'est un ancrage qui, je pense, vous avez Myriam Bahafou qui parle aussi du désir du monde et il y a aussi un rapport à ce qu'est la nature en parlant du corps cette fois-ci. Et je pensais que voilà, cet ensemble de réflexions n'était pas inintéressant dans ce qui nous occupe aujourd'hui. Pour ce qui nous occupe aujourd'hui, donc on a 2 heures. La première heure, ce sera donc une discussion entre les intervenants que j'ai le plaisir d'animer. Et puis on va essayer d'avoir la 2e heure quasiment de discussion avec la salle parce que c'est ça qui est toujours très riche ici à Cluny. Donc, je présente 2 intervenants par ordre de place. Marie-Hélène Lafage, vous êtes consultante et enseignante en transition écologique, cofondatrice de l'Institut Transition, et vous avez écrit récemment Métamorphose pour un projet d'adaptation écologique. Et on en reparlera évidemment. Voilà, très bien. C'est normal, en fait, on montre aussi ce qu'on fait. Jean-Claude Monod à côté, vous êtes philosophe, directeur de recherche au CNRS, membre de la revue Esprit. Vous travaillez sur la démocratie et la gouvernementalité. Et vous avez écrit, alors, L'art de ne pas trop, pas être trop gouverné, c'est peut-être le dernier ouvrage. Et puis, vous avez coordonné donc un dictionnaire Lévi-Strauss chez Bouquin. On pourra aussi en reparler. Et écrit un certain nombre d'articles, évidemment, dans la revue Esprit, mais certains des récents portaient sur Lévi-Strauss, et puis aussi dans le numéro sur Merleau-Ponty, sur le corps, donc on pourra peut-être en reparler. Et Jean-David Abel, enfin, vous avez exercé diverses positions politiques et associatives au service de l'écologie, et aujourd'hui, vous êtes pilote du réseau biodiversité de France Nature Environnement, et administrateur à l'Office français de la biodiversité, et pourrez-vous aussi vous parler de ces expériences. Alors, pour ce premier temps de la réflexion, depuis plusieurs années, il y a un tournant qu'on a qualifié parfois d'anthropologique de l'écologie, on y reviendra, mais avec des noms que tout le monde a entendus, je pense, Bruno Latour, Philippe Descola, où on ramène une question qui est en réalité ancienne sur la nature et par distinction de quoi, qu'est-ce que la nature? Est-ce que c'est un construit social? Est-ce que c'est une idée occidentale qui se distinguerait de l'humain? Est-ce que, à l'inverse, la nature est nécessaire pour une écologie qui pense les rapports au monde? Et dans tous ces débats très riches, ma première question pour Jean-Claude Monod, c'est est-ce que vous pouvez déjà peut-être le resituer? Et puis comment vous vous situeriez, vous, dans cette question de la nature aujourd'hui, dans les relations humaines en philosophie?
Merci beaucoup. C'est bon, ça, on m'entend? Oui. Merci beaucoup. Alors, c'est une très vaste et difficile question, hein, y compris, disons, le flou relatif de la notion de nature, le fait que peut-être on ne dispose plus, on ne dispose pas d'un concept unifié de nature aujourd'hui. Hein. Peut-être que c'est un concept foncièrement éclaté. On a plusieurs sens, plusieurs couches de sens, je dirais, qui se sont déposées, qui se sont sédimentées, qui viennent de foyers historiques, de foyers théoriques, éventuellement de foyers scientifiques même différents. Et je pense que l'écologie ou les écologies, puisque vous citiez ce texte de Gorz, il y a un certain nombre évidemment de textes qui distinguent et combien de variantes de l'écologie, souvent en fait se situent aussi par rapport à telle ou telle notion de nature, en revendiquant plutôt telle notion et en mettant en question ou voire en récusant même d'autres concepts de nature. D'ailleurs, l'article de Catherine Larrère, le bel article dans la revue, parle à propos de Gortz d'une écologie sans nature. Alors, ça peut paraître paradoxal, ce qu'il y a une écologie sans nature. Et en un sens, il y en a une autre aujourd'hui, peut-être. Si vous faisiez allusion à l'instant avec ce tournant anthropologique, c'est effectivement ce qu'ont développé des gens comme des Scola, ou en un sens peut-être Latour, mais qui consiste à faire une généalogie de la notion de nature ou du naturalisme occidental et d'en relativiser la portée et d'essayer de partir au fond de combats écologiques, de luttes écologiques dans le monde et notamment chez ceux qu'on appelle les peuples indigènes ou les peuples autochtones, etc., pour y repérer des luttes qui se passent de cette référence à la nature et même pour qui cette référence à la nature ne fait pas forcément sens. Et donc comment dans ce cas-là s'articule une lutte écologique qui ne fait pas référence à notre concept de nature. Disons, alors, il y a tous les problèmes que ça pose. Hein. Et j'y reviens peut-être dans un instant. Alors, pour ce qui est de l'éclatement, je ne vais pas essayer de répertorier les sens de la notion de nature, ce serait trop long, mais j'en énumère quand même quelques-uns pour peut-être faire sentir aussi cette complexité et avec la question de savoir si c'est un obstacle pour l'écologie actuelle. Est-ce que cet éclatement de sens est un problème, peut-être même une des causes de la relative faiblesse du mouvement écologiste aujourd'hui, malgré un très large accord sur la crise écologique, sur la crise climatique, etc. Mais en fait, il y a aussi un désaccord derrière, ou des désaccords sur la façon dont se référer à la nature, notamment à aux traditions scientifiques qui ont traité de la nature. Alors, il y a un sens qui est absolument important dans la tradition occidentale, qui n'est pas le premier chronologiquement, mais qui est peut-être le terme qui renvoie à ce qui a eu le plus de force dans la configuration du monde contemporain, et qui est le sens de la physique, notamment de la physique de l'époque mécanique, de la physique mathématique, donc de la révolution scientifique moderne, c'est-à-dire la nature au sens où on parle des lois de la nature, des lois de la chute des corps, des lois de la gravitation, etc. Bon, c'est la physique classique et ses suites qui ont eu, comme on le sait, des répercussions immenses en termes aussi de progrès scientifiques et techniques, et donc de reconfiguration de ce qu'on peut appeler le monde vécu par des techniques sur lesquelles nous nous appuyons quotidiennement encore, bien entendu. Moi, je suis venu en TGV, etc. Bon, on a des téléphones portables. Bon, tout ça peut être vu comme des suites lointaines de cette révolution scientifique moderne. Mais c'est aussi, justement, la vision de la nature et l'ontologie de la vision de l'être, disons, qui est mise en question par les théoriciens plus récents, et peut-être aujourd'hui les plus influents de la sphère écologiste en France, disons par exemple Latour ou Descola, c'est-à-dire comme le grand partage moderne entre nature, une nature vue comme purement extérieure, une nature vue comme purement, non humaine, et pur objet, et de l'autre côté, disons l'humanité, une humanité séparée, une humanité qui serait en face de la nature, et cette nature serait ravalée au rang d'objet, et donc indéfiniment exploitable, considérée comme de la pure matière, un pur stock, etc. Et tout le sens ou tout l'esprit serait situé du côté de l'humanité. Donc ce grand partage serait en fait une des causes de la catastrophe écologique, une des causes lointaines. Et c'est ce que Descola vise quand il parle de naturalisme. Alors, je ne vais pas entrer dans une discussion de Descola, ça c'est intéressant, je pense que c'est tout à fait intéressant, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais évidemment, la tradition occidentale elle-même, y compris scientifique, recèle d'autres sens de nature, ne serait-ce qu'un des sens qui a fondé l'écologie, qui est le sens d'oïkos, au sens d'interdépendance et d'interrelation qui définissent un système, un écosystème. Donc là, on a un sens qui n'est pas du tout complètement extérieur, qui est au contraire un sens d'inclusion et de système de rapport. Donc, et c'est ce sens qui a fondé l'écologie scientifique. Alors en fait, il y a d'autres sens aussi qui se superposent et un sens peut-être plus ancien, très ancien, qui remonte immémorial, y compris en Occident, qu'on peut remonter peut-être à la Grèce, etc., qui est un sens du tout ou de l'unité, de ce à quoi on appartient, justement, en gros, du tout, de pan en grec, et parfois identifié d'ailleurs à la Terre. Il y a la question de la nature et la Terre, Gaïa qui a aussi pu être réactivée par des théoriciens écologistes plus récents comme Lovelock, etc., comme le super organisme, le grand organisme, voir la Terre comme le grand vivant dont nous sortons, le grand vivant dont nous dépendons, dont nous sortons, et qui est susceptible de se transformer, de se détériorer, etc., et qui a un modèle. Alors, je trouve, en fait,
qui fonde aussi ce sentiment éventuellement dont vous parliez, le sentiment de la nature, le sentiment d'une totalité à laquelle nous appartenons, qui a nourri, alors non seulement l'écologie, mais aussi la poésie. Je veux dire, ça nourrit, quand Rimbaud dit « Nature berce-le chaudement, il a froid », c'est dans le Dormeur du Val, ce soldat qui est mort, « Nature berce-le chaudement, il a froid », c'est-à-dire c'est la mère nature, c'est la nature qui va reprendre tous les vivants dans son sein, dans le giron, etc. Et ça, c'est une image de la nature, je pense qu'il y a un imaginaire de la nature qui est encore prégnant, y compris dans les sociétés occidentales. Et il y avait un article justement de Lévi-Strauss qui s'appelait « Le sentiment de la nature, un besoin fondamental », où il disait que finalement, ce sentiment-là, il naît peut-être aussi par contraste quand on vit dans des villes, etc. On a d'autant plus peut-être cette aspiration à une totalité ou à une nature au sens de ce qui n'est pas encore urbain ou ce qui n'est pas encore transformé. Et enfin, alors il y aurait d'ailleurs aussi éventuellement une distinction. On peut identifier terre et nature, mais aussi parfois il y a l'idée que la terre pourrait être un concept alternatif à nature, peut-être un meilleur concept, et qu'on pourrait au fond un peu jouer la terre, si je veux, défendre la terre et penser comment la terre elle-même réagit quand la terre se soulève éventuellement contre sa propre brutalisation. Et vous voyez que ça rejoue quand même un registre un peu mythique, c'est-à-dire celui de d'une personnalisation de la terre qui réagit, mais dans le cadre d'une pensée écologique peut-être plus polémique. Enfin, donc j'ai dit, il y a cette évidence, cette notion de l'oïkos, et puis on parle encore, et j'en finis parce que je peux faire trop un tunnel, mais on parle aussi aujourd'hui d'une nouvelle nature qui correspondrait à l'anthropocène, qui n'est plus la nature extérieure non plus, qui est la nature transformée de fond en comble par l'activité humaine, ou de notre nouvelle nature, que décrit Anat Singh par exemple dans un ouvrage collectif qui porte ce titre, notre nouvelle nature, à partir d'une multitude de terrains ou de lopins, ou ce qu'on appelle des patchs, où on voit comment des vivants ont été transformés par l'activité humaine et ont eu même des effets de transformation considérables. Par exemple, comme un coléoptère rouge d'Amérique du Nord qui se retrouve en Chine par l'effet du commerce du bois va tuer des millions d'arbres en Chine. Et donc, alors cette nouvelle nature, elle n'est pas harmonieuse, elle n'est pas forcément la grande nature maternelle, la grande matrice, etc. C'est plutôt une nature un peu monstrueuse, mais qui est notre nouvelle nature, qui est la nature qu'il faut décrire, qui est une nature en perpétuelle transformation et avec laquelle il faut nouer de nouveaux rapports. Alors, que faire face à cet éclatement, à cette pluralité, à cette sédimentation imaginaire, d'imaginaire de la nature ? Je crois qu'il y a plusieurs voies, et j'en finis. Une voie, ça consiste à dire qu'au fond, l'écologie n'a pas besoin de se référer à la nature, avec tout ce que là, ça peut charrier de confusion, de mythique, de projectif, voire de régressif. C'est-à-dire un peu la position d'André Gortz. Hein. Il faut se méfier de toutes les régressions pré-techniques, pré-industrielles, toute une fantasmatique, en fait, d'un retour à pré-moderne, aussi avant la révolution scientifique moderne, avec tout ce que ça peut charrier de réactionnaire dans différents sens. C'est une position. Il y a une autre position qui est plutôt la perspective peut-être décoloniale et qui est aussi celle de l'anthropologie peut-être d'un des scolas, qui consiste à essayer de prendre distance avec le naturalisme peut-être et de s'ouvrir à d'autres pratiques, à d'autres agencements, à d'autres façons d'assembler, à d'autres façons de concevoir, y compris les luttes écologiques, comme des assemblages d'humains et de non-humains qui permettent de doter aussi un fleuve d'une personnalité, qui permettent de doter une montagne d'une mémoire. Et ce sont des choses. Alors, est-ce que ça implique de récuser le concept de nature, le concept scientifique de nature ? Moi, je ne crois pas, à vrai dire, même si c'est un peu la conclusion de Descola. Moi, je pense que c'est ça, on peut peut-être le penser par voie de traduction, en donnant crédit, en comprenant là, comment ça peut inspirer un respect et une sagesse, en fait, une sorte de sagesse pratique dont l'Occident devrait s'inspirer, effectivement. Je pense que l'Occident aurait à gagner à s'inspirer, et ce tournant anthropologique, en ce sens, est très important. Mais je ne crois pas, et on y reviendra tout à l'heure, que ça implique de récuser le naturalisme, en un sens, le naturalisme scientifique, parce que, en fait, c'est scier la branche sur laquelle l'écologie est assise. Voilà.
Merci beaucoup Jean-Claude, et je pense que ça nous aide bien aussi à voir les possibles à partir de cette complexification, et on reparlera des incidences politiques ensuite, mais je me tourne vers Jean-David Abel par rapport à votre, à votre travail, à votre position au réseau biodiversité de FNE. Évidemment, quand on pense à nature, on pense à l'idée de s'y allier, mais aussi de la protéger, de la sauver, d'entretenir des liens, d'apprendre d'elle, de se servir d'elle, puisque c'est aussi une approche que dénoncent des auteurs que Jean-Claude citait. Donc, ça pose encore la question de mais de quoi on parle quand on parle de nature, et cette fois-ci, donc, peut-être, Jean-David Appel, depuis vos travaux et vos engagements.
Merci. Deux choses. D'abord, je vais, et ça sera intéressant de dialoguer avec vous dans la seconde partie de cette séquence. Moi, je vais essayer d'être plus prosaïque sur tout ce que je ressens comme nœud au sein des sociétés humaines pour aborder ces questions-là, des relations à la nature, des bifurcations à faire et de ce qui freine, etc. Donc je vais partir, je vais dresser d'abord un peu un paysage, quelques nœuds qu'on connaît tous, mais forcément j'ai pas beaucoup de temps, donc voilà. Et puis après, quelques pistes déjà, des choses déjà à l'œuvre ou des choses à développer. Je me suis fait une trame, je vais la garder, moi je suis pas professeur, j'ai besoin d'avoir des choses écrites un peu, hein. Je suis pas forcément ultra à l'aise. Si, ou alors si je suis à l'aise, je vais partir pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et je vais vous saouler, donc je vais essayer de me tenir un peu à ce que j'ai écrit. Et donc d'abord, pour répondre à la question, de quoi on parle quand on parle de sauver la nature, on vient d'en parler, ou de la restaurer. Et quand on en parle aujourd'hui, pas de la même manière dont on parlait il y a 50 ans ou 60 ans, quand Jean Dors écrivait « Avant que nature meure », on était dans un rapport à la nature et aux problèmes écologiques, aux problèmes environnementaux qui sont totalement différents de ceux qu'on vit aujourd'hui, de ceux qu'on subit, de ceux sur lesquels on essaye d'agir aujourd'hui, notamment du point de vue à la fois de tout ce que la science a documenté au fil des décennies, mais aussi en fonction de l'urgence qu'il y a à agir pour éviter des effondrements trop importants, ou irréversibles pour un certain nombre de sujets. Donc la question sous-jacente aujourd'hui, c'est que, d'ailleurs il s'agit moins de sauver la nature pour elle-même hein, que pour nous, pour le vivant en tout cas, pour l'humanité. La nature, elle va continuer de toute manière, quoi qu'il nous arrive dans le prochain siècle, mais simplement reconnaître le fait qui maintenant est ultra documenté, que l'humanité s'est affranchie des limites planétaires et que on s'est aussi affranchi de toute une partie de l'habitabilité immédiate hein, sur les sols, sur l'eau, sur l'air, sur etc. etc. et que maintenant, effectivement, à la fois l'échelle d'action, mais le temps d'action efficace est mesuré pour tout le monde, alors de façon différente évidemment au Chili, en Chine et ici, mais globalement à travers certains facteurs comme le climat ou les pollutions chimiques ou l'état des océans, etc. C'est quand même quelque chose dans lequel on est tous embarqués. Et la deuxième chose de ce point de vue-là, c'est que par rapport à tous nos amis de gauche avec lesquels dont on est issu pour beaucoup et avec lesquels on a beaucoup cheminé, la question c'est finalement pourquoi est-ce qu'on a agi comme ça ? Pourquoi est-ce que l'émancipation, la libération, le progrès de l'homme, on l'a vu d'abord par la croissance des forces productives, par la croissance de la consommation de biens matériels, etc. Et je pense que c'est pas du tout l'objet de l'atelier, donc je vais pas rentrer là-dedans, mais juste bien partager le fait que c'est quelque chose qui vient de très très loin, qui est culturel, qui est psycho-socio-culturel, qui est ultra profond dans l'humanité, en tout cas dans l'humanité occidentale, et que c'est pas des choses dont on se défait en quelques années, même en quelques décennies, c'est pas des choses sur lesquelles on rompt pas avec des modes de production, de consommation comme ça. Mais par contre, ce qu'on peut déjà avoir appris, acquis, pas seulement dans nos pays, dans beaucoup d'autres, au cours des juste dernières décennies, c'est qu'il est possible d'impulser des changements transformateurs sur le rapport de l'humanité à la nature, sur l'activité économique, etc., mais par des partis pris inscrits dans la durée. Et c'est bien un des problèmes aujourd'hui, c'est que quand il y a des réactions ou des politiques publiques qui sont mises en œuvre, elles sont souvent mises en œuvre au coup par coup, dans le zig, dans le zag, on accélère, on arrête, etc. Et il y a très peu d'endroits sur Terre où on a 20 ans, 30 ans d'action continue et systémique sur l'ensemble des champs qui concernent. Moi, je parle vraiment de nature au sens d'habitabilité hein, de la planète. Je ne parle pas du tout que de biodiversité, surtout que la biodiversité, on la résume souvent aux espèces, alors qu'en fait, c'est les écosystèmes et tous les fonctions, tous les services qui nous rendent qui sont absolument vitaux pour nous. Donc, le deuxième catégorie de constat, qui pour moi est un problème majeur, dans lequel aujourd'hui des responsables politiques et beaucoup de médias et les réseaux sociaux évidemment ont un rôle majeur, très important. C'est un, les discours qui dénient l'importance, voire la réalité des enjeux environnementaux, qui sont très très largement diffusés, repris, etc. Avec beaucoup de... Enfin bon, on viendra dans la discussion. Qui sont vraiment effectivement instrumentalisés à droite et à l'extrême droite, mais pas du tout seulement chez eux, malheureusement. Et puis, évidemment, toutes les arguties sur l'écologie punitive, etc., qui font floresse et qui ont des oreilles attentives, évidemment, dans des milieux pour qui, à la fois la compréhension du problème ou même la capacité, selon leur position sociale ou leur situation individuelle, n'est pas du tout forcément facile à appréhender. Et de plus, ces discours, pour beaucoup de groupes sociaux, les enferment dans des identités régressives. C'est quelque chose qui existait déjà avant, mais c'est quelque chose qui est énorme depuis une dizaine d'années. Donc les agriculteurs, les ruraux, hein, les habitants de la ruralité, enfin qui vous voulez, hein, ça peut être un certain type d'entreprise, ça peut être les conducteurs automobiles, ça peut être etc. Et tous sont flattés dans le sens du poil contre les objectifs environnementaux, qui sont pourtant totalement fondés en raison, par les scientifiques qui sont votés par des législateurs français, européens, etc. Et malgré tout, eh bien effectivement, on voit bien qu'on a des discours très populistes, très simplistes, qui ébrèchent ou qui empêchent les mises en œuvre de politiques ambitieuses, parce qu'effectivement, on a un discours plaintif, hein, de pseudo-compréhension des problèmes de ces groupes sociaux. Mais en fait, on les enferme dans des catégories où ils ont du coup beaucoup de mal pouvoir, d'une part, écouter d'autres, rencontrer d'autres, mais se poser les questions de façon, je dirais, un petit peu plus globale. Et donc, on constate que partout, ces enfermements identitaires profitent au discours conservateur. C'est vrai de façon différente, hein, dans les pays d'Europe. Moi, je vois beaucoup dans certains pays de l'Est européen sur un certain nombre de sujets post-communistes. Ils sont passés quand même, ils ont vécu des étapes très brutales. Mais les polarisations qui sont entretenues par nombre d'acteurs politiques et médiatiques empêchent tout ce qui peut être compréhension mutuelle, empathie, dialogue, recherche de solutions concrètes sur tous les sujets qui le nécessitent aujourd'hui. Vous voyez comment c'est difficile de travailler sur l'artificialisation avec des discours simplistes en face, sur l'agriculture, j'en parle pas, sur l'évolution des mobilités, où on est toujours... bref, on reviendra après. Et donc, il me semble que pour pallier à ça, il faut d'abord avoir un meilleur partage du diagnostic initial, du diagnostic scientifique et scientifique économique initial, en partant de plusieurs constats. Enfin, si, il me semble que si on ne les a pas en tête, on risque effectivement de faire d'ailleurs ce qu'une partie de l'écologie a fait, y compris les associations pendant très longtemps, mais de manquer des cibles majeures. D'abord, se dire que ceux qui sont éloignés de la compréhension de ce diagnostic, de la situation dans laquelle on est, sont nos cohabitants, on est interdépendants avec eux, c'est pas juste des forces extérieures qui sont des adversaires, etc. C'est l'humanité commune avec laquelle on a à faire face, dans toute, qu'on soit à l'école, qu'on soit dans les activités territoriales, économiques, etc. Et voilà, on va pas avoir raison contre eux d'une certaine manière, il y a d'autres manières à faire pour travailler avec eux. Deuxièmement, il n'y aura pas non plus de possibilité de changement aux échelles nécessaires si on n'intègre pas la dimension sociale des problèmes dans tous ces aspects. Hein, on l'a fait bien et mieux depuis une dizaine d'années, mais on est encore très loin du compte, je pense, parce que dans ces questions sociales, il y a aussi beaucoup de questions culturelles, hein, socioculturelles. Troisièmement, moi, et c'est de ça dont je vais parler surtout après, il me semble que pour pas venir apporter des changements concrets, effectifs, il faut qu'on arrive à renouveler nos processus démocratiques. Je parle pas actuellement de ce qui se passe au niveau national, hein, de la Ve République et du reste, mais vraiment de ce qu'on peut faire les uns et les autres partout où on est, à des échelles très différentes, hein, qui peuvent être locales, régionales et plus. Mais sur les modalités de prise de décision, sur la création d'espaces de délibération territoriaux ou parfois dans des filières économiques, voilà, on a besoin de recréer des espaces de dialogue, de construction, de confrontation, je vais un peu le détailler, à même de contourner des actions de lobby, d'intérêt économique, qui, dans le court terme, arrive toujours à nous faire reculer de trois pas qu'on a réussi à avancer de deux. Et puis, autre chose dont je voudrais bien parler avec vous, avec tout le monde, là, les gens ont des expériences et des engagements différents. Là. Moi, il me semble aujourd'hui que très fortement, les institutions d'État, pas seulement les espaces de consultation, mais les institutions elles-mêmes, les services déconcentrés de l'État, le Parlement d'une certaine manière, etc., etc., sont des facteurs de frein au changement, sont des facteurs majeurs de frein au changement, parce que c'est eux qui sont le réceptacle premier de tous les groupes d'intérêt politiques et économiques. C'est là que tout cela bille en premier, et quand tu viens après pour avoir des plaidoyers totalement rationnels, politiques, etc., etc., eh bien, tu vas être blackboulé parce que tu as déjà eu X chambres de commerce, X présidents de région ou parlementaires de tel ou tel groupe qui est passé et qui a déjà invalidé. C'est pas que tu n'aies pas raison. Tout le monde te dit que tu as raison, mais c'est pas possible de le faire parce que, etc., etc. Et donc, dans ce sens-là, tous les lieux de démocratie dans lesquels on devrait être dans la délibération sont aujourd'hui phagocytés par ça, parce qu'il y a un pouvoir de nuisance ou de contre-discours, etc., etc., de beaucoup d'acteurs politiques et économiques qui sont absolument majeurs. Et là, ça, il faut que, d'une certaine manière, par le bas et par le haut, on réussisse à le contourner, le perturber, etc., etc. Ça va, je peux encore...
Oui, 2-3 minutes, de toute façon...
2-3 minutes, d'accord. Et c'est là, je vais parler de ça, parce qu'après je viendrai vraiment dans la seconde partie, du coup, sur les alliances, ou l'agir avec la nature. Mais c'est là, donc, dans ce que je viens de vous dire, que je pense que vient la question de la construction de nouvelles alliances, des alliances capables de générer des espaces de dialogue, de démêlage des enjeux, de construction de compromis, d'abord entre humains, parce que souvent c'est pas avec la nature qu'on a des soucis, c'est entre humains qu'on se fait des nœuds, des bagarres et des guerres, mais avec la nature ça va bien, c'est pas elle qui pose les problèmes ou qui pose problème, mais aussi s'attaquer à des nœuds très serrés. Aujourd'hui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur les identités régressives, avec des incompréhensions, des méconnaissances, bien sûr de la concurrence, de la compétition, des accaparements, des représentations figées de tels groupes, ruraux, urbains, ce que vous voulez, écolos, etc., etc. Et des alliances, il y a des places, ouais. Des endroits où il est possible, d'ores et déjà, de partager des questions et des approches différenciées, de construire, ça j'y tiens beaucoup, on pourra le détailler, des controverses structurées, c'est-à-dire que chacun n'arrive pas juste en plantant son drapeau en disant « j'ai raison, je veux ça et vous allez m'écouter », mais dans laquelle on dit « c'est quoi le sujet ?» et on déplie, on déploie, etc., etc., et c'est vraiment très fréquent. Donc la recherche de chemins possibles qui n'évacuent aucunement les différences ou les intérêts émis par les uns et les autres au départ. Bref, en fait, l'évaluation et la construction de possibles horizons communs, à nouveau, ce qu'on a perdu depuis très longtemps dans nos sociétés. Et donc, des alliances qui sont capables, enfin des lieux qui, pour moi, sont capables de générer un nouvel agir politique, c'est-à-dire de fonder la légitimité de nouveaux types d'actions politiques, d'abord au niveau territorial, mais qui peut après rapidement être rendu possible à d'autres échelles. Et deux exemples pour finir ça. Moi, je pense que des types d'alliances existent déjà, en embryon ou un peu plus. Les travaux conjoints de syndicats ouvriers, CFDT, CGT, avec beaucoup d'autres acteurs de l'environnement ou de la solidarité. Donc c'est vrai que le pacte du pouvoir de vivre pour la CFDT, c'était vrai pour la CGT avec plus jamais ça. Bon, ils ont dû, pour des raisons internes, s'en retirer, mais je pense que ça va redémarrer. Ils savent très bien qu'ils ont absolument intérêt à se décloisonner et à être dans des nouvelles dynamiques d'alliance. Voilà. Et ça, c'est des endroits très très féconds pour dépasser d'abord son nombril, hein, je parle, y compris par exemple pour nos associations à nous, mais pour tout le monde, et pour construire, quand on parle logement, quand on parle santé, quand on parle truc, des solutions communes et non pas une juxtaposition de choses qui sont portées par chacun dans ses certitudes et son couloir de nage, parce que historiquement c'est pour ça qu'on est là, c'est pour défendre nos trucs sans regarder ceux à côté avec lesquels on peut travailler immédiatement. Et au niveau territorial, il y a des intercommunalités, des agglomérations, des parcs régionaux, etc., qui ont des actions ou qui font des actions publiques avec le parti pris dans l'élaboration dès le départ, d'une mixité d'acteurs comme postulat. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas « je vais aller parler aux agriculteurs, puis aux forestiers, puis aux acteurs du tourisme, puis aux associations de protection, ou en ville avec les je ne sais pas quoi, etc. » C'est dès le départ, on met tout le monde ensemble et on dit « comment on fait, comment on avance, c'est quoi les possibilités, c'est quoi les nœuds, c'est comment est-ce qu'on les efface, comment est-ce qu'on tient compte, ou quelles solutions palliatives on met en place, etc. etc. » Et ça, on peut le voir aujourd'hui dans... par exemple, des implantations de parcs de production d'énergie renouvelable, dans des gestions de conflits d'usage ou de fréquentation. Moi, je l'ai vu dans des gestions de protection de nappes phréatiques, enfin de nappes grandes, hein, étendues. Hein, c'est pas voilà, dans lesquelles tout le monde est là. Hein, c'est pas chacun qui joue son lobby contre son intérêt contre vis-à-vis du préfet. C'est tout le monde qui est ensemble dans la recherche de solutions. Voilà. Et donc, ça, c'est des choses qui sont dont on a des dizaines d'exemples déjà et qui sont des embryons de modes de décision différents qui sont capables de générer des actions qui vont beaucoup plus profondément transformer la réalité de ces territoires.
Merci. Donc, on est passé des sens de la nature qu'évoquait Jean-Claude à des nœuds d'action, de politique, etc. Et ce qui m'interroge... dans ce panorama sur les alliances et la nature, c'est le changement. Et Marie-Hélène Lafage, vous avez écrit donc sur l'adaptation, les métamorphoses, c'est-à-dire comment on passe de modèle à d'autre, et j'aimerais vous entendre là-dessus, sur justement les sens de l'adaptation que vous avez travaillé.
Oui, effectivement. Bonjour à toutes et tous. Moi, j'ai travaillé sur donc l'adaptation au changement climatique. Donc, dans les rapports du GIEC, de manière assez classique, on vient distinguer atténuation du changement climatique, limitation des gaz à effet de serre, et puis comment on va faire face aux conséquences. Bon, c'est une distinction qu'on peut aussi juger artificielle, qui doit susciter plein de discussions, je ne m'étends pas là-dessus. Néanmoins, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de me dire, cette question dont on parle de plus en plus en France, de l'adaptation, de faire face aux conséquences, déjà la regarder d'un point de vue historique, c'est-à-dire que justement ce sujet n'est pas nouveau, de le regarder dans les politiques publiques, qu'est-ce qu'on fait en fait aujourd'hui là-dessus et pourquoi on est en retard, et du point de vue aussi des idées, c'est-à-dire si il faut s'adapter face au changement climatique. En fait, il y a une espèce d'illusion de consensus parce qu'il y a différentes visions politiques derrière et j'y reviendrai. Puisque voilà, j'ai essayé de distinguer une vision conservatrice de l'adaptation, une vision néolibérale et une vision qui soit écolo-solidaire, puisque je pense qu'on a des idées à défendre sur la question de l'adaptation parce qu'en face, sinon, eux, ils ont une vision assez claire de ce qu'ils peuvent faire. Voilà, et donc en fait, dans cette approche assez générale, je suis aussi allée voir sur le terrain comment concrètement des personnes vivent ces conséquences du changement climatique et essayent de s'adapter. Donc j'ai fait un aller-retour entre le concret, le terrain et la pensée. Et sur cette question de la relation au vivant, ce que j'en ai retiré, c'est un peu trois choses. La première, c'est que quelque part, aujourd'hui, avec ces conséquences visibles du changement climatique, nos interdépendances se retrouvent réactivées. Remise en visibilité. Alors, par exemple, ça m'a frappé comme beaucoup d'endroits aujourd'hui qui subissent les conséquences du changement climatique sont en fait des espaces où on est allé construire dans un rapport assez dysfonctionnel au milieu. Donc, je vous donne un exemple, je vous donne des exemples, mais en gros, c'est souvent dans les années 60, 70, 80 qu'on est allé construire sur le littoral en se disant, avec l'illusion qu'on pouvait fixer le littoral, qui a toujours été mouvant. On est allé construire dans le lit majeur des rivières en se disant que on avait une forme de maîtrise et de domestication de ces espaces. Les villes elles-mêmes, c'est l'époque où on a commencé à en faire vraiment des fours, c'est-à-dire changement climatique ou pas, on a mené une forme d'artificialisation et de domination des espaces. Et donc aujourd'hui, c'est ces espaces-là, dans un monde où les conséquences du changement climatique viennent accélérer les phénomènes, accélérer les changements, amener des événements climatiques extrêmes, qu'on vient se rappeler à nous le fait de notre interdépendance et le fait que ces espaces sont mouvants et qu'on ne les a pas dominés, domestiqués. La deuxième chose qui arrive, c'est aussi l'imbrication des crises. C'est-à-dire qu'on a du mal, je trouve, à en avoir assez conscience, puisqu'on a plutôt tendance à séparer aussi climat et biodiversité. Mais quand on regarde les choses, on a une crise de biodiversité, où on le rappelle de manière classique, un des cinq facteurs, c'est le changement climatique dans cette crise de biodiversité. Et le changement climatique lui-même vient amplifier la crise des écosystèmes. Le retard qu'on a sur l'atténuation du changement climatique vient à son tour fragiliser les écosystèmes et donc compromettre nos capacités d'adaptation. Donc on a là un enchaînement aussi de choses qui vient nous rappeler nos interdépendances. Et puis le rôle, je pense qu'un certain nombre d'initiatives ou d'événements locaux viennent nous rappeler ces interdépendances parce qu'on voit que le rôle des écosystèmes est fondamental pour faire face à un certain nombre de problèmes. Baptiste Morisot dit c'est le reste du vivant qui rend le monde habitable pour nous. On le voit quand face aux inondations, on va restaurer des zones humides, etc. Donc ce que je pense, c'est aussi que ce courant actuel sur le lien au vivant vient aussi d'une période actuelle où les conséquences du changement climatique viennent nous rappeler nos interdépendances. Et donc je pense que voilà, c'est pas non plus anodin dans ce qui se passe aujourd'hui dans la pensée. Le deuxième point, en dehors du fait que les interdépendances se rappellent à nous à travers les conséquences du changement climatique, c'est un retour du vivant dans une pragmatique de terrain. Moi, j'ai été assez stupéfaite du dynamisme qu'il y a en France autour de ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. C'est-à-dire justement le fait de recourir aux écosystèmes pour trouver des solutions face aux conséquences du changement climatique. La chose à laquelle on pense assez spontanément, c'est de remettre des arbres en ville. En fait, c'est quelque chose qui est en train de se faire partout et de manière finalement assez consensuelle. Le fait de replanter des haies ou des arbres en agriculture, c'est quand même, en fait, ça se passe concrètement un peu partout en France. J'en ai déjà parlé, mais la restauration des zones humides. Près de La Rochelle, vous avez le marais côtier du Tadon, qui fait 10 hectares, qui a été où il y a eu un formidable projet de restauration écologique, et ça permet de stocker les eaux pluviales, 30 000 mètres cubes d'eau pluviale possiblement, qui peuvent être stockées et éviter des inondations. Il y a aussi en Bretagne des solutions fondées sur la nature pour lutter contre l'érosion du littoral et la montée des eaux. En Outre-mer, on parle très rarement des Outre-mer, mais c'est pour le coup un énorme laboratoire sur l'adaptation, puisque les Outre-mer font partie de ce que j'ai appelé les territoires de première ligne, où les conséquences du changement climatique sont particulièrement fortes. Qu'est-ce qu'on observe dans les Outre-mer ? Énormément d'initiatives concrètes autour des solutions fondées sur les écosystèmes. Donc, pour vous donner des exemples, le fait de recréer de la mangrove, de planter des palétuviers, que ce soit dans les Antilles, en Nouvelle-Calédonie, c'est des choses qu'on est en train de faire partout pour essayer à Mayotte, pour essayer de lutter contre la montée des eaux. Donc c'est en fait de manière globale partout, c'est quelque chose qu'on observe, et ces solutions fondées sur les écosystèmes, souvent elles sont encore abordées comme plutôt de l'expérimentation, mais on va rentrer dans une phase où il va falloir passer à de la généralisation. Et ça, c'est quelque chose qui est discuté dans les politiques publiques, avec quand même quelque chose qui est derrière ça, qui est que, c'est notamment Virginie Duva, qui est une spécialiste des Outre-mer, qui le soulignait, souvent on ne les prend pas au sérieux, ces solutions-là. C'est-à-dire que par exemple, pour protéger un village, elle donne cet exemple, et pour protéger un village dans les Antilles, on va se dire que construire une digue, ça c'est sérieux, que des ouvrages en béton construits, c'est sérieux. Par contre, aller planter des palétuviers, on peut le faire parce que c'est quand même bien de protéger la nature, mais ça va pas être forcément autant pris au sérieux en fait. Et donc c'est ce qui fait aussi que souvent ces actions sont faites de manière expérimentale, petite, et n'atteignent pas non plus leur plein potentiel. Alors qu'aujourd'hui on a besoin, parce qu'on a des expériences à 20-30 ans qui montrent que ça marche, de les massifier, de les généraliser. Mais c'est pas anodin sur le regard qu'on porte sur ces choses-là en termes de solutions sérieuses, quoi. Et la dernière chose que j'ai observée, c'est que ce qui se passe face sur les conséquences du changement climatique en France, c'est aussi quand même un champ de bataille idéologique, au sens où cette prise en compte des écosystèmes dans l'adaptation est pour moi, enfin fait partie pour moi d'un marqueur d'une vision écolo-solidaire de l'adaptation. Il y a les personnes qui considèrent que pour faire face aux conséquences du changement climatique, on va s'adapter de manière séparée du reste du vivant, dans un bunker, on va mettre la clim, et tout ira bien. Et en fait, c'est vraiment une pensée quelque part séparatiste. C'est-à-dire, nous, société humaine, on va se préparer, on va, par nos moyens techniques, s'adapter. Mais le reste des écosystèmes sont évacués, en fait. Là où, je pense qu'il faut défendre en face l'idée que on ne pourra pas s'adapter sans les écosystèmes avec lesquels on a coévolué, comme le dit Baptiste Morisot. Et donc, si je donne deux exemples, vous prenez le partage de l'eau. La plupart des discours politiques vont dire il faut réussir à partager l'eau entre les différentes activités humaines. La ressource raréfie, donc il faut qu'on réussisse à mieux partager l'eau. À quel moment est-ce qu'on mentionne le fait que le partage de l'eau, c'est entre les activités humaines, mais c'est aussi avec les écosystèmes? Donc la question, ce qu'on appelle le débit réservé, les rivières, on doit maintenir un débit pour la bonne santé des milieux. C'est pas juste on partage l'eau entre nous humains, donc être capable de rappeler que le partage de l'eau, c'est les activités humaines mais aussi les écosystèmes dont on a besoin pour notre survie, ça par exemple, vous voyez, c'est un marqueur. Si je prends la question de l'arbre en ville, je vous disais, il y a une sorte de consensus, tout le monde veut planter des arbres, mais si vous écoutez les discours, il y en a pour qui l'arbre va quand même être une sorte de mobilier urbain. Donc par exemple, il faut planter X arbres en ville. C'est différent d'avoir une approche de dire il faut redonner sa place à la nature et à l'arbre en ville. Là, c'est un peu plus dérangeant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte de débitumer, d'enlever possiblement des places de stationnement, que l'arbre, bah, il faut qu'il ait sa place pour s'installer, parce qu'il est quand même très contraint en ville. Donc vous voyez qu'on rentre dans des réflexions, et puis que c'est peut-être pas que l'arbre, mais planter plusieurs strates pour avoir quelque chose qui soit un vrai écosystème et qui en plus soit intéressant en termes de chaleur. Donc voilà, en fait, c'est il y a un marqueur aujourd'hui sur la prise en compte des écosystèmes dans l'adaptation. À l'inverse, on va trouver des personnes qui finalement considèrent que c'est pas le reste du vivant qui rend le monde habitable pour nous, mais c'est l'homme qui rend les milieux habitables par la domestication. Et donc, en fait, ces deux visions-là viennent s'affronter. Pour vous donner un peu des exemples, c'est l'idée que si on redonne leur place aux écosystèmes, ça va être dangereux, ça va venir nuire aux sociétés. Et donc émerge la figure, j'en parle dans mon livre, du bouc émissaire écolo. C'est-à-dire que sur beaucoup de sujets d'adaptation, les écolos vont devenir les responsables des problèmes. Alors je vous donne des exemples qu'on a eu dans l'actualité. Le feu dans les Landes. La forêt a brûlé dans les Landes. Alors figurez-vous que c'est la faute des écologistes qui refusent qu'on débroussaille. Et donc c'est pour ça que, voilà, en Californie, en fait partout, les écolos vont être les personnes responsables des catastrophes, parce que c'est ces personnes-là qui veulent passer d'une logique de domestication des milieux au fait de redonner de la place à la nature, et ça c'est dangereux. Autre chose, la catastrophe de la Bérarde dans les Alpes, dont vous avez peut-être entendu parler, il y a eu des discussions locales très violentes sur les responsabilités en fait de cette catastrophe, et des personnes ont dit c'est la faute des écologistes si on n'entretient plus les cours d'eau, les rivières. La même chose dans le Pas-de-Calais, les inondations, c'est la faute des écologistes qui veulent plus qu'on aille curer les rivières. Donc vous voyez que en fait dessine là une forme derrière d'affrontement entre différentes visions, différents rapports aux écosystèmes sur le terrain.
Merci beaucoup, et merci donc à vous trois pour ces paysages avec vos approches propres et différents niveaux. Et on voit donc effectivement différentes natures, différents rapports à la nature, différents usages du concept même, selon ce qu'on met dedans, qu'on l'oppose à soi ou qu'on l'inclut, etc. Et donc dans cette deuxième partie, qui sera un peu plus courte, on va ouvrir à la salle ensuite, mais c'est le terme de l'alliance aussi qui est intéressant, c'est-à-dire une alliance, finalement c'est un terme extrêmement politique. Alors il y a le contexte national donc que vous avez évoqué, que les uns et les autres ont évoqué, et je pense que c'est pas anodin, c'est-à-dire que le décalage éventuel avec de ce qu'on dit avec ce qui se passe dans certaines institutions est, je pense, plutôt révélateur d'un problème que simplement des choses juxtaposées. Et dans un ouvrage récent, Il y a deux personnes qui étaient venues ici les années précédentes, Antoine Chopot et Léna Ballot, qui ont fait un livre qui s'appelle « Nous ne sommes pas seuls » en 2021 chez Seuil, et qui est assez intéressant parce que dans ces courants donc sur le tournant anthropologique ou le retour de questions sur la nature, ils ont une approche qu'on pourrait qualifier de radicale, mais en tout cas, ils parlent de puissance de la Terre, de soulèvement de la Terre, qui ne serait pas donc un arrière-plan, mais quelque chose sur lequel il faut agir et avec lesquels agir, et avec des exemples de subsistance, de pratiques villageoises paysannes, de pratiques naturalistes. En fait, eux, ils appellent, et je pense que c'est intéressant pour réfléchir, à changer le langage politique et vraiment à passer dans ce que d'autres, je vais citer Baptiste Morisot, mais appellent vraiment à considérer un monde de lieux, une vitalité commune, des peuples vivants, et le terme de vivant, je pense, parce qu'on en a un peu parlé, mais qui n'est pas exactement la même chose que la nature. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il passe dans le vocabulaire beaucoup et il est très utilisé. Alors, est-ce que c'est un terme qui, dans la politique, marche mieux qu'écologie, mais pour dire des choses similaires, je ne sais pas. Mais il y a l'idée, en fait, de refaire communauté plus largement ou dans d'autres, en fait, distinctions. Et je pense que cette question, elle est cruciale si on veut, et ça va être ma question, hein, si on veut réfléchir à des approches politiques, comme vous l'avez déjà commencé, de l'écologie, qui donc prennent en charge en fait ce rapport avec un extérieur qu'on considère peut-être plus comme autant extérieur qu'il l'était. Et je sais que Lucille, avec Catherine Larrière, vous avez beaucoup travaillé pour faire écouter la notion de nature chez les écologistes en disant justement qu'il faut en faire quelque chose et il faut se mettre d'accord, ou en tout cas faire du désaccord et discuter sur ce qu'on en fait. Il y a évidemment plein d'autres questions, mais donc celle de l'alliance, pour moi, ça pose la question de comment on fait politique, comment on fait société en intégrant cette question de la nature. Et je vais juste poser des questions à la générale, puis vous y répondrez à tour de rôle comme vous le souhaiterez. Mais Jean-Claude, vous travaillez sur les formes de gouvernement politique et donc des formes de pouvoir. Et donc comment cette question de la nature fait partie de notre manière de concevoir le pouvoir politique. Jean-David, vous travaillez sur des pratiques d'association, de fédération, d'alliance et d'initiatives dont vous avez déjà parlé. Et de rapport aussi aux institutions publiques, effectivement, et je pense qu'il faudra aussi parler de ça. Et Marie-Hélène, sur le passage à des pratiques d'alliance dont vous avez parlé, des phénomènes d'atténuation ou de métamorphose, derrière, il y a la question des puissances d'agir et de comment on agit, finalement, concrètement. Ensuite, c'est vraiment dans le rôle de l'action par ces alliances. Donc, on peut reprendre le même ordre, Jean-Claude, si vous voulez commencer, et après, on pourra prendre des questions.
Oui, merci donc, pour la question que tu viens immédiatement de poser. Bon, l'articulation de l'écologie ou de la nature dans des formes de pouvoir hier et aujourd'hui, ce serait une belle et très difficile question à son tour. On retrouverait un peu cette idée que le concept de politique dans la tradition occidentale, avec tous les guillemets qu'on voudra, mais a été essentiellement un concept, disons, interhumain, où la question était de régler les rapports des hommes entre eux, des citoyens entre eux, des citoyens éventuellement aux non-citoyens, mais plutôt en termes d'étrangers ou de personnes privées de droits et qu'il faudrait faire accéder aux droits. Alors cette pensée-là a pu s'élargir, bien sûr, au-delà du cadre humain, à la question des droits, et à s'énoncer d'ailleurs dans ce registre des droits, la question aussi de savoir comment éventuellement doter de personnalité juridique des entités qui jusqu'alors en étaient exclues, comme des fleuves. Donc ça, je pense qu'il y a une transformation de la conceptualité juridico-politique depuis plusieurs décennies qui essaye justement de desserrer peut-être cet anthropocentrisme des concepts juridiques et politiques occidentaux. Le droit en fait étant peut-être moins anthropocentrique que depuis très longtemps que la vision du politique, du citoyen soldat, etc., puisque depuis la Rome antique, on dote de personnalité juridique des entités qui ne sont pas des entités personnelles, hein, donc c'est quelque chose, on savait doter de de personnalités juridiques des entreprises, des collectifs, etc. Donc l'élargissement à des entités naturelles, à des fleuves, etc. a pu se faire, je pense, et pourra et continue, va continuer à se faire assez naturellement. Mais c'est vrai, on peut dire, mais il y avait cette image qu'avait employée Michel Serres dans le contrat naturel, qui était cette image de Goya, de personnes, de géants, je crois, qui se battent avec des bâtons, et qui, donc ça c'est le théâtre politique, et puis ils ne voient pas qu'en fait ils sont sur des sables mouvants, et donc ils ont oublié de considérer que ce qui était autour d'eux ou sous eux n'était pas juste un décor, mais était partie prenante en fait du devenir historique et politique humain. Alors la question de l'alliance, évidemment, bon, Serres parlait de pacte, mais on peut parler aussi bien sûr d'alliance, alliance avec et pour, c'était utile cette table ronde qui peut, ça peut être durci en une alternative, c'est-à-dire ça peut faire apparaître des débats. Alors évidemment le problème peut-être quand on est dans un contexte écologiste, de réflexion écologiste, c'est qu'on se demande toujours dans quelle mesure il vaudrait mieux faire front commun qu'explorer des divergences ou des points aveugles. Et ce serait une discussion en soi, mais c'est-à-dire comme sans doute tout mouvement politique social d'ampleur, mais peut-être plus que d'autres, l'écologie politique connaît évidemment différentes variantes, tendances, etc., des différentes stratégies, et même des différences quant à la façon de concevoir et de thématiser ces différences, c'est-à-dire savoir s'il faut en faire une question secondaire, c'est-à-dire faut faire le front commun, ou si c'est quand même une question très importante de savoir jusqu'où on peut s'allier, jusqu'où il ne faut éventuellement pas s'allier. Qu'est-ce qu'il faut refuser comme alliance ? Qu'est-ce qu'il faut refuser comme alliance sous peine de dénaturer l'écologie ou de faire qu'elle soit captée sur un mode qui va en faire quelque chose de complètement cosmétique et, disons, pour dire très grossièrement, une sorte de greenwashing du capitalisme. C'est-à-dire, bon, et évidemment, c'est une tendance possible. Et là, c'est un positionnement à avoir. C'est la même décision politique, c'est-à-dire jusqu'où on peut accepter de faire alliance et jusqu'où il faut refuser de faire alliance. Alors là, alliance parmi des forces. Et je pense que c'est un débat. L'autre débat, symétrique peut-être inverse, étant de savoir si, donc si on refuse de faire alliance, c'est au nom d'une certaine radicalité, mais au bon sens du terme, du combat écologique. C'est-à-dire qu'il faut aller jusqu'à la racine du problème et on ne peut pas se contenter d'un ripollinage capitaliste et cosmétique. Ou l'autre problème étant l'excès de radicalité qui fermerait à des alliances nécessaires, évidemment, notamment auprès de la grande masse de la population. Et je crois que c'est un thème qui revient aujourd'hui beaucoup dans ces débats, dans ces journées même, mais et qu'effectivement, qui est assez quand même crucial. Alors moi, je voulais pas tellement entrer dans ces considérations stratégiques, et je voulais, alors je m'en excuse, ça va être encore un peu théorico, historico, philosophique. Je voulais juste évoquer un débat sur lequel je suis tombé récemment et que j'ai trouvé intéressant, qui met en jeu cette question de l'alliance. Alors bon, il se trouve que c'est un grand savant qui est un lointain membre de ma famille, et beaucoup plus proche membre de la famille de Claire Monod, ici présent. Encore un Monod, c'était l'État Monod, la tout Monod. Voilà, bon. Donc c'était Jacques Monod qui a écrit Le hasard et la nécessité, vous savez, en 1970, qui est un livre qui a eu un très grand retentissement, et dont les dernières phrases sont très connues. Il dit « L'ancienne alliance est rompue. L'ancienne alliance est rompue. » Et la suite, je la cite, « L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. » Et c'est une conclusion d'une histoire de la science, notamment de l'émergence de la biologie moléculaire. Et donc, c'est la conclusion d'un livre scientifique ou de philosophie naturelle de la biologie, dit Jacques Monod, qui, en fait, donc, nous dit que c'est fini, cette histoire d'alliance. Nous, modernes, nous ne pouvons plus croire en l'idée d'une alliance avec la nature, parce que l'alliance avec la nature, c'est quelque chose de foncièrement projectif, mythologique, où on projette des finalités favorables ou défavorables à l'humanité, alors que le principe d'objectivité, dit Jacques Monod, c'est de rompre en fait avec cette vision d'une nature qui aurait des finalités pour nous. C'est l'application d'un principe d'explication causale mécanique où la biologie moléculaire s'inscrit, et donc il faudrait briser la fausse alliance pour justement, évidemment, explorer systématiquement la nature sous l'angle objectif. Alors, Il faut noter deux choses. Et donc, il écarte toutes les tentatives qu'il appelle d'animisme ou de vitalisme, en y incluant beaucoup de choses, d'ailleurs, aussi bien Bergson qu'un certain marxisme qui projette, selon lui, dans les forces productives, des intentions, etc. Mais donc, je laisse ça de côté. Mais donc. Il faut noter que ça n'empêchait pas d'ailleurs Jacques Monod de s'engager pour la défense de l'environnement, mais au nom plutôt des données de l'écologie scientifique sur la destruction des écosystèmes et au nom d'une éthique humaniste. Donc c'était des gens s'alliés en fait entre nous quand même plutôt et pour sauver peut-être le vivant et en tout cas l'environnement. Et ça rejoint d'ailleurs cette position, celle dans les années 70 de Gorz, dont on pourrait parler, qui était assez proche, même s'il venait plutôt du marxisme dans son cas, mais avec une méfiance envers une écologie éco-centrique, et plutôt donc une écologie anthropocentrique. Et alors, juste après la lecture du Hasard et la nécessité, un collègue de Jacques Monod lui écrit pour le féliciter, bon, mais aussi surtout en fait, pour exprimer sa perplexité. Donc c'est Claude Lévi-Strauss, alors c'est quelqu'un qui anticipe un sens tournant anthropologique, dans une lettre très dense du 14 octobre 1970, qui a été publiée et qu'on trouve en ligne dans le bulletin d'histoire d'épistémologie des sciences de la vie. Et Lévi-Strauss objecte quelque chose, il dit on ne peut pas faire cette alternative entre principe d'objectivité et toute forme d'animisme. C'est-à-dire il faut arriver à penser quelque chose qui est à force de refuser tout animisme, en fait, on reconduit un dualisme qui n'est pas une position scientifique, qui est une position philosophique, métaphysique, où on a un homme séparé et la nature qui est quand même complètement en face. Et cette séparation, cette vision, n'est pas en fait scientifique, elle est philosophique, idéologique, etc. Et donc un dualisme, qui a peut-être d'ailleurs des sources aussi religieuses dans la tradition occidentale, et un humanisme en fait abstrait, un humanisme de l'homme séparé, alors que Lévi-Strauss dit le humanisme bien ordonné ne commence pas par soi-même. C'est-à-dire qu'il faut éviter de commencer par l'homme, il faut replacer l'homme dans une diversité d'êtres vivants, et là on peut penser à un humanisme où l'homme est voilà, au sein d'une multiplicité d'êtres qui ont tout autant de droits que lui d'exister. Et c'est comme ça qu'on évitera peut-être l'infortune de l'humanisme, d'un certain humanisme occidental qui a au fond complètement asservi ce qu'il tenait pour justement sans esprit, etc., que ce soit les animaux, d'ailleurs éventuellement d'autres populations qui étaient considérées comme non rationnelles, etc. Et donc c'est intéressant parce que c'est un peu, vous voyez, à mon avis, c'est intéressant parce que ça annonce aussi toute cette critique éventuellement coloniale, d'une écologie qui en fait aussi va expliquer au monde entier comment il faut penser, comment même il faut agir, y compris à des populations qui ont beaucoup mieux préservé leur environnement que nous, et à qui on explique qu'ils doivent éventuellement d'ailleurs être expulsés. Moi j'avais un peu travaillé à une époque avec une autre association qui s'appelle Survival International, qui travaillait sur des situations, des parcs, où il y avait des parcs en Afrique par exemple, où les populations étaient expulsées pour préserver la nature qu'ils avaient eux-mêmes préservée, ou bien ont été extrêmement restreints dans leurs droits de chasse par exemple, et parfois pour faire même des parcs ensuite de touristiques. Donc c'est vraiment d'un cynisme absolu. On a une espèce de... Alors au nom d'une écologie, mais une écologie aussi dévoyée, une écologie où on présente ça comme la nature sauvage, sans voir que cette nature a été en fait longuement transformée et pratiquée par des populations, mais sur un mode qui l'a préservée. Voilà. Et donc, je pense là, voilà la wilderness aussi, qui a été un concept où on pouvait aussi expulser des populations ou restreindre extrêmement leur pratique. Bon. Et donc, alors c'est là où je trouve que tout ce courant écologique est important, y compris ce que développe De Scola aujourd'hui à propos de ces luttes indigènes qui pensent des assemblages, des alliances d'ailleurs, des alliances entre humains, non humains aussi, des alliances entre ces populations, éventuellement justement des supports juridiques, des supports associatifs, etc. Donc une sorte de composition de la lutte et des collectifs en lutte ici qui est extrêmement instructive et qui doit être méditée, je pense, bien sûr. Et contre des équipements, des méga-projets. Et ça se retrouve, au fond, là, il n'y a pas du tout de coupure. Ça se retrouve évidemment dans des combats qu'on connaît ici, que ce soit des ZAD, etc., face à des formes de méga-projets inutiles, où a été activer aussi cette idée qu'il ne s'agit pas simplement de protéger un espace pour les humains, mais il s'agit évidemment de faire en sorte que l'ensemble des vivants qui vivent dans, ces zones, en un sens, se défendent eux-mêmes, enfin, soient défendus, mais se défendent eux-mêmes. Et alors, juste pour finir, est-ce que... Moi, c'est une question qui m'obsède un peu, vous l'aurez compris. Alors, je suis philosophe, mais fils d'ethnologue, etc. Donc, c'est presque dipien. C'est-à-dire le moment où... est-ce qu'il faut adopter forcément les croyances des populations que l'on... Dans quelle mesure c'est possible? Dans quelle mesure on peut le faire, en quelle sorte, sincèrement, quand on a des habitudes, quand on a été grandi dans une, avec nos convictions scientifiques, philosophiques, etc. Dans quelle mesure... Alors, c'est une chose que n'ignore pas du tout Descola, d'ailleurs, dans le livre avec Alessandro Pignocchi, Ethnographie des mondes d'avenir. Il dit, bah oui, non, mais c'est, je ne crois pas que les grenouilles vont prendre les armes contre les bulldozers. Je ne crois pas que... donc, la sympathie pour l'action, d'ailleurs, de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, dont le mot d'ordre était, ce n'est pas nous qui défendons la nature, c'est la nature qui se défend, ne veut pas dire que je pense vraiment... à une défense, vous voyez, au sens où elle se soulèverait, son âme, mais plutôt des choses que vous décriviez d'ailleurs à l'instant, c'est-à-dire comment effectivement des déséquilibres, des choses créent des dommages qui touchent à leur tour les sociétés, comment donc il y a cette circularité, cette interdépendance qui est illustrée et qu'on peut traduire, je pense, qu'on peut moduler, qu'on peut exprimer en quelque sorte entre les différents registres. Alors, j'ajoute un dernier, pour compléter ce que vous disiez peut-être sur cette façon de s'inspirer aussi de l'autorégulation par exemple, du vivant ou des besoins des arbres, etc. Il y a ce courant intéressant qui est le biomimétisme, c'est-à-dire une façon de s'inspirer de modèles du vivant pour développer des nouvelles des techniques qui justement étudie la richesse, en quelque sorte, des techniques du vivant lui-même, que ce soit, par exemple, et même du paléo-vivant, par exemple, comment les os de dinosaures peuvent nous instruire sur la façon dont on peut soutenir un édifice, peuvent nous instruire pour dans l'architecture contemporaine, pour soutenir des grandes masses avec très peu de matière. Enfin, voilà, il y a des choses assez extraordinaires d'invention qui recourt aux matériaux fournis, en quelque sorte, aux modèles fournis par le vivant. Voilà.
Oui, et juste avant de passer la parole à Jean-David Havel, Jean-Claude, vous parliez de parcs d'Afrique, et ça fait penser, on a une petite note de Benjamin Caraco dans le numéro d'Esprit sur un ouvrage et un ensemble de travaux sur les racines du ciel de Romain Gary. Et c'est très intéressant, parce que c'est un ouvrage qui, en 1956, justement raconte comment ce personnage Morel qui était déporté et qui avec ses camarades pensait à des éléphants dans la nature, donc il fantasmait une nature libre, pour le coup complètement fantasmée, se retrouve en fait à défendre avec des peuples présentés par les coloniaux comme des résistants ou des terroristes, en fait à défendre les éléphants, mais il défend pas tant les éléphants que les peuples locaux avec les éléphants, y compris s'ils les chassaient en fait. Mais donc il y a déjà dans cet ouvrage, je pense, un truc, mais qui était aussi lié à l'époque, que je trouvais intéressant dans cette tension et qu'on trouve aujourd'hui. Jean-David Havel, je pense sur cette question de la politique et de l'alliance, des manières d'agir en fait.
Compliqué. Non, j'ai vraiment envie de reprendre ça, mais je vais le faire forcément avec quand même... je vais reprendre des choses que j'avais écrites, parce que là on est dans beaucoup de choses sur lesquelles on est avec la nature, mais on n'est pas en alliance avec la nature. On se raconte beaucoup de choses, et moi c'est peut-être le seul truc que je voudrais dire, c'est que d'abord faut pas qu'on se paye de mots, quoi. Il y a beaucoup d'acteurs de terrain, nous ne sommes pas seuls, nous sommes la nature qui se défend, mais beaucoup de courants philosophiques, anthropologiques, qui bâtissent des choses extraordinaires et qui pour moi sont ultra théoriques et qui nous aident en rien dans la réalité, sauf effectivement dans des démarches possiblement spirituelles, vraiment, pour ceux que ça tente, pour ceux qui pensent que ça peut être une orientation, une fécondation de nos modes de pensée occidentaux, trop fermés, etc. Mais moi, je crois d'abord que le premier truc, c'est-à-dire de quoi on parle quand on dit alliance avec la nature, c'est-à-dire que, en fait, comment est-ce que on échange avec elle, comment est-ce qu'on commerce avec elle, comment est-ce qu'on contractualise avec elle. J'ai adoré le contrat naturel, évidemment, sauf que j'en ai jamais rien fait. Hein. C'était une très belle idée, mais j'en ai jamais rien fait dans ma pratique d'écologiste, d'associatif, d'élu de parc régional, etc. Voilà, jamais. Par contre, ce que j'en ai fait, c'est ce que je vous ai dit avant. C'est le travail avec les humains autour de ces sujets-là. C'est les hommes qui s'embrouillent, qui se font la guerre à partir de ça. Et si on veut faire la paix ou ne plus dégrader les milieux naturels, les espèces, etc., d'abord que les hommes évoluent et prennent... Pour moi, c'est la manière la plus efficace de le faire. Parce que dans ce rapport, dont on parle beaucoup, alors soit sur les choses très scientifiques, soit sur les choses plus philosophiques, en fait, on voit pas qu'il y a quelque chose qui est complètement inégal. C'est que nous avons fondamentalement, tout le temps, tous les jours, besoin de la nature, à tous les niveaux, eau, air, alimentation, matière, bois, etc. Alors qu'elle n'a pas besoin de nous, du tout. Elle a besoin qu'on ne lui nuise pas, elle a besoin qu'on ne la dégrade pas, elle a besoin qu'on ne la pollue pas. Et on a partout dans le monde entier des milieux qui se sont régénérés très rapidement, en quelques décennies, de façon ultra riche, dès que les activités humaines, les humains, ont arrêté de les dégrader, les prélever, etc. Et les espèces, c'est pareil. Dès qu'on a mis quelques lois de protection et qu'on a fait en plus la pédagogie, les programmes de SVT ont évolué, etc., ben on voit que des espèces qu'on avait massacrées jusqu'à la dernière, reprennent pied dans tous nos territoires. Dès qu'il y a en plus un peu de déprise agricole, on est moins dans une occupation dense des territoires, on voit que les aigles, les échassiers, les loutres, les castors, les loups, les lynx, bien sûr les cerfs, les chevreuils, tout ce que vous voulez, refont des populations en quelques décennies, très fortement. Donc, elle n'a pas besoin de nous. Elle a besoin, et je pense que le premier truc à se dire, et pour tous les amis, y compris des écoles voisines dont il a été question, là, le premier truc, c'est ne pas nuire, ne pas impacter, avoir une empreinte globale, pas seulement évidemment énergétique, climat, etc., mais matière, sol, ressources, la plus... Et là-dedans, il y a évidemment ce qu'on prélève directement, mais je pense qu'une des choses les plus profondes et les moins visibles, c'est les pollutions chimiques, c'est les pesticides, c'est tout le reste, qui, eux, nuisent dans la durée et pour des décennies et décennies. Aujourd'hui, vous avez des espèces qui vont bien en France. Vous avez des faucons pèlerins, des vautours, des aigles, comme il n'y a pas eu depuis un siècle et demi, ou les loups, etc. Alors que les insectes, les amphibiens, les reptiles, les chauves-souris continuent à s'effondrer, mais de façon massive, quoi, hein, avec des choses accélérées, là, dans les deux dernières décennies, avec, y compris des disparitions complètes, ou des populations réduites à pas grand-chose. Donc, premièrement, ne pas nuire, et ça veut dire des choses très importantes dans notre action urbaine, dans notre action économique, dans notre action, enfin, à tous les niveaux, forestière, etc., etc., il y a des choses de base. Alors, c'est moins philosophique, hein, c'est moins joli, ça fait des moins jolis bouquins, mais je vous promets qu'en efficacité... Non, mais je suis un peu dur parce que... Non, pas d'anti-intellectualisme, mais pas par rapport à ce que vous avez dit. Mais moi, franchement, je suis la nature qui se défend. C'est ce que nous on fait, d'ailleurs, c'était notre slogan. Hein. Partout où la nature a besoin de nous, c'est genre chevalier blanc. Puis moi, quand même, en grandissant, en mûrissant, en étant élu local, etc., moi, j'ai travaillé avec des élus divers, avec des chasseurs, avec des forestiers, avec des trucs. Et j'ai vu que dès qu'on était sur un objet précis... on arrivait à s'entendre très très bien, et que beaucoup de gens, dont les gens qui écrivent, et dans Chopo, etc., qui sont là, et les soulèvements, etc., parlent beaucoup au nom d'eux, se légitiment, parce qu'en fait, ils légitiment les autres. Hein, quand tu dis « moi, je sais, je suis la nature qui se défend », ça veut dire que le chasseur à côté, ou le forestier, ou le je sais pas quoi, je parle pas bien sûr de l'aménageur de la 69, mais il y a des milliards de manières d'être différentes au monde et à la nature, et il suffit pas de dire qu'on est la nature qui se défend pour avoir raison contre d'autres manières, pas seulement économiques, mais aussi culturelles, hein, culturelles, anciennes, d'user de la nature. Et ça, je pense, c'est très important, parce que là aussi, c'est de l'humilité. Quand moi, je parle d'alliance, c'est parler de ça. Donc, je mets tout le monde avec, hein, bien sûr, les soulèvements et tout. Je voudrais juste que des fois, on soit plus modeste, nous, associatifs, pour dire, on fait avec et on vient pas donner des leçons, etc., etc. Ça me semble, voilà. Voilà. Et je pense d'ailleurs que ça, tout ce qui est les discours aujourd'hui sur le vivant, etc., etc., je pense que plus on est dans l'anxiété, dans la compréhension de l'ampleur de la crise, et plus ce type de discours-là ou de manifestation-là se développe. Moi, j'ai été plusieurs fois au festival Agir pour le vivant à Arles. J'y suis même intervenu plusieurs fois. Et je vois comment il est absolument merveilleux d'arriver à faire des choses culturelles, spirituelles. Mais alors, je peux vous dire que les pesticides, ils ont encore des décennies devant eux, si vous voulez. On est dans des choses, en fait, on contourne, on pose les questions ailleurs. C'est pas des questions fausses, c'est intéressant, c'est riche entre nous. On peut faire ça. Mais dans la réalité de l'efficacité des actions publiques, des politiques publiques, moi je sais pas. Et ça n'arrive pas à se relier, ça n'arrive pas à inviter des syndicalistes agricoles pour parler, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est ça la difficulté. Donc peut-être que je suis un peu terre à terre, mais je pense que on ne contournera pas ceux qui sont ceux qui se vivent comme opposés à nous, peut-être certains qui ont des intérêts, en tout cas de court terme, opposés, etc. Il faut vraiment aller au cœur de ça et dénouer ça. C'est dans le système, c'est ça dans ce sens-là que je parlais d'alliance d'un nouveau type tout à l'heure. Et après, juste pour finir, deux trucs. Sauf à se payer le mot sur de l'alliance, je pense qu'on peut déjà faire beaucoup dans ce que Marie-Hélène a dit sur agir avec la nature. C'est pas agir en disant toi la forêt tu viens on va faire c'est pas les grenouilles qui vont attaquer les bulldozers, mais par contre si on préserve les écosystèmes, si on laisse les forêts en libre évolution, si on laisse les rivières ou si on les reméante, si on les relaisse, on leur redonne des espaces de divagation, etc. Tout ça, toutes ces solutions fondées sur la nature, en agriculture, en eau, en qualité de l'eau, en lutte contre les inondations, en qualité de l'air, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui donnent des bénéfices énormes. Et comme tu l'as dit, on a déjà des centaines d'actions comme ça qui sont importantes. Et c'est ça qu'il faut amplifier partout. Alors, ça ne dit pas que la forêt ou la rivière, c'est notre ami, c'est une alliée, on a signé, etc. Et voilà. Et je vais finir là-dessus parce que le truc qui effectivement arrive d'abord par les anglo-saxons, mais qui finalement arrive beaucoup chez nous. On en avait parlé ici avec Marine Calmet il y a deux ans, c'était dans la première édition. C'est le fait effectivement de donner des droits juridiques, enfin des personnalités, merci, c'est ça le terme que je cherchais, à des fleuves, à des massifs forestiers, des massifs montagneux, etc. Et c'est, à mon avis, assez intéressant de voir jusqu'où le droit peut nous conduire là-dedans, avec le petit bémol, là encore, ce que moi je vois toujours en pratique, c'est que, en fait, à un moment, et toujours, c'est des hommes qui vont parler pour la nature. Que ce soit des peuples premiers, des peuples, des habitants locaux ou des associations, hein, beaucoup d'associations sur le Parlement de la Loire et ce que vous voulez. Finalement, on dit, on drone une personnalité, mais finalement, c'est des humains qui parlent à la place d'eux ou en place d'eux. Donc, je pense qu'il faut arriver, si là-dedans, dans le fait de dire on fait un parlement et qu'on arrive à mettre dans la réalité ce dont je parlais, ce que je décrivais comme alliance avec les pêcheurs, les je sais pas quoi, enfin tout ce que vous voulez, on peut arriver effectivement à avoir une expression du fleuve dans cette pluralité d'usages et d'appropriation et de culture, etc. Si on arrive en disant c'est nous les scientifiques, c'est nous les associations trucs, et on va dire c'est ça qui est bon et c'est ça qui est pas bon pour le fleuve, je pense qu'on va reproduire des blocages, des nœuds, au lieu de, au contraire, se donner des nouveaux horizons avec nos contemporains.
Oui, oui, merci. Si vous voulez, non, je vais passer la parole à Marie-Hélène et puis après on fera une discussion avec la salle parce que j'imagine qu'il y a plein de questions, de réactions. Juste oui, ça, je pense que voilà, plutôt qu'un désaccord ou que théorie pratique, c'est vraiment effectivement, je pense que vous avez mis en valeur le sens politique en fait de ce qu'est la nature, quoi qu'on en fasse. C'est-à-dire que forcément quand on en parle, il y a des usages politiques, il y a des manières de se construire et de se positionner dans des rapports humains en utilisant ou pas la nature et en lui donnant une place ou pas. Donc voilà, je sais pas si Marie-Hélène tu sur ces questions-là.
Non mais c'est en fait c'est dans la droite suite et en fait tu vas voir que je propose des terrains concrets pour vivre ce que tu dis. En fait mon premier point, c'est peut-être d'abord, avant de parler d'alliance, je parlais de bataille idéologique. Il y a aussi l'inverse de l'alliance, c'est la guerre. Et en fait, il y a des endroits où, alors je vais citer Rachel Carson parce que il y a pas longtemps, j'ai retrouvé une citation géniale de Printemps silencieux où elle introduit son livre en disant c'est un livre sur la guerre de l'homme contre la nature et comme l'homme fait partie de la nature, c'est fatalement aussi un livre sur la guerre de l'homme contre lui-même. Et donc, ce à quoi on assiste sur l'adaptation, c'est parfois à des situations où on part en guerre, en fait, contre la nature. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est dans un reportage qui a été fait, qui s'appelle « Ça chauffe à la montagne », qui parle des conséquences du changement climatique en montagne et donc qui montre la station de Superbès. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, en Auvergne, station de ski qui a 70% du domaine skiable avec de la neige artificielle et qui est en fait une des stations en Europe qui est des mieux équipées sur la neige artificielle. Ils pompent dans un lac et voilà. Donc il y a une énorme armada pour essayer de maintenir cette station. Et il y avait quelqu'un qui était dans une super dameuse. Ils ont des systèmes de plus en plus aboutis d'un point de vue technologique pour tout ça. Et donc, il disait on ne va pas se laisser vaincre par le réchauffement. Et donc, il était vraiment en guerre contre les éléments, en fait. Et donc, c'est intéressant parce que c'est l'inverse de l'alliance. En tout cas, ça nous conduit à ça, à essayer de nous battre en dessinant une situation de guerre. Et ça rejoint du coup ce qu'on appelle en adaptation la maladaptation. Alors, la maladaptation, c'est la géographe Magali Regezazit a une image assez géniale. C'est quand on donne un médicament où les effets secondaires sont pires que le mal en lui-même. Donc en gros, vous essayez de vous adapter, mais avec plein de conséquences sur les gaz à effet de serre, la biodiversité, les sociétés humaines. L'exemple qui a fait beaucoup débat en France, c'est les mégabassines. C'est l'exemple type de débat autour de la maladaptation. Et donc, vous allez retrouver ces formes d'adaptation-là qui nuisent à la biodiversité, qui nuisent au reste du vivant, et où on va finir par se mettre en guerre, finalement, et pas en alliance, pour essayer d'assurer notre survie de manière assez vaine. Et donc, en montagne, on observe vraiment... Moi, je suis allée voir pas mal de collectifs qui naissent en montagne autour de l'avenir de leur massif. Donc, comme Oisan Project dans l'Oisan, Vercors Citoyen dans le Vercors, où ils se sont beaucoup battus contre le projet de Tony Parker, notamment. Pas tout, parce qu'il y a Corançon en Vercors aussi qui est encore... Et la Clusa aussi, enfin voilà, un certain nombre d'endroits où il y a eu des luttes en montagne. Et en fait, eux, ils se battent pour le coup, l'habitabilité future de leur territoire. Et le débat, c'est changer de modèle en montagne. On le simplifie souvent en pour ou contre le ski, mais en fait, le sujet, c'est comment on change de modèle et comment on passe à un modèle et à une société qui soit davantage en alliance, justement, avec les écosystèmes présents. Où est-ce qu'on continue dans un modèle où on va aller chercher la ressource en eau et qui questionne l'habitabilité future du territoire. Voilà, donc il y a en fait ces enjeux-là autour de alliance versus guerre, quoi. Alors dans l'autre sens, la question de l'alliance, elle existe, comme je l'ai déjà mentionné. Il y a Baptiste Morisot qui en parle aussi dans son livre que vous avez peut-être lu sur les castors, et qui a pas mal été connu parce que c'est des solutions aujourd'hui qui commencent à être déployées, de dire si on redonne sa place aux castors dans nos rivières et si on imite le castor en tant qu'architecte génial de nos milieux, on peut retrouver des rivières avec déjà des milieux qui sont beaucoup plus riches, mais aussi qui nous permettent de mieux faire face aux sécheresses et aux inondations, puisque vous retrouvez un lit beaucoup plus naturel, beaucoup plus étendu, qui peut à la fois permettre d'absorber l'eau, donc c'est tout ce qui est aujourd'hui ralentir le cycle de l'eau pour qu'elle soit mieux absorbée localement, et puis aussi quand il y a des inondations, vous permettez que l'eau puisse davantage s'étendre. Donc c'est des choses qui viennent notamment des États-Unis. Et en France, il commence à y avoir des collectivités qui l'expérimentent, notamment dans la Drôme. Donc, c'est des choses que je suis allée voir pour essayer de renaturer les rivières et de faire alliance. Donc, voilà, le livre de Baptiste Morisot, c'est « Faire alliance avec le peuple castor ». Donc, vous voyez qu'on rentre complètement dans ces logiques-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il distingue bien l'alliance de l'utilisation. C'est-à-dire, ça va plus loin que... Parce que parfois, les solutions fondées sur la nature que j'évoquais, c'est un peu comme l'arbre mobilier urbain. C'est-à-dire, on va utiliser la nature pour répondre à un besoin, mais on ne se laisse pas fondamentalement déranger par le fait de redonner de la place aux écosystèmes et aux vivants. L'alliance, c'est pas juste l'utilisation. L'alliance, c'est laisser place aussi à l'autre. Donc, ce que ça veut dire, si on rentre de manière exigeante dans cette logique d'alliance, c'est qu'on se laisse aussi déranger. Et ce qui est intéressant sur l'histoire du castor, c'est que si vous regardez dans l'actualité, dans la presse, dans les presses locales, il y a plein d'histoires de problèmes avec les castors. C'est-à-dire que le castor qui ronge le pilier électrique et il n'y a plus de courant localement, ça existe. Le castor qui va faire des barrages, bah, il fait des barrages où il veut et où il pense que c'est bien, bah, pas de chance, ça finit par inonder une partie du village. Voilà. En fait, le castor vient déranger. Et en fait, ça crée localement des réactions qui sont aussi assez houleuses sur « oui, mais du coup, il faudrait réguler les castors qui viennent nous embêter ». Donc, en fait, pourquoi je raconte cette histoire-là, c'est que ça nous montre que cette question des alliances, c'est effectivement pas qu'un courant un peu pour se faire du bien et se rassurer face à la crise écologique en se disant qu'il faut qu'on tisse des nouveaux liens. Si on le prend au sérieux sur le terrain, c'est une question politique et démocratique. Parce que si on n'amène pas ce changement dans le rapport aux écosystèmes et le fait de laisser plus de place aux vivants avec de la discussion démocratique locale, ça ne fonctionne pas en fait. Parce que c'est un changement qui est culturel et politique. Et c'est ce qu'on voit aussi sur l'eau en général et sur ce changement de culture qu'on a à avoir, de passer d'une vision où on était dans le drainage et dans des cours d'eau qui étaient abordés comme des tuyaux pour évacuer l'eau. Et maintenant, on est en train de se dire qu'il faut ralentir le cycle de l'eau, etc. Et comment ? Oui, il y a 40 ans qu'on se le dit, mais là, maintenant qu'on est en train de passer dans des pratiques de manière assez forte dans des territoires, en tout cas, moi, ce que j'ai observé, c'est localement aussi des incompréhensions, des conflits, de la réaction. Et si je mentionne ça, c'est du coup pour dire que ces changements qu'on vient apporter, ils sont politiques et ils nécessitent de manière essentielle des espaces de dialogue démocratique. Ce que j'ai vu de concret sur l'adaptation qui était intéressant, c'est pour le coup quand on réussit localement à partir de questions qui sont des questions qui se présentent autour des conséquences du changement climatique, de recréer ce que j'appelle des triangles démocratiques. C'est-à-dire d'avoir les responsables politiques, les acteurs locaux et la population, et d'autre part, les scientifiques, qui peuvent amener une connaissance, une compréhension de ce qui est en train de se passer, des écosystèmes, etc., et de réussir à créer une discussion locale sur quelle est la situation, quelles vont être les conséquences du changement climatique, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et là, on repart effectivement, comme le mentionnait Jean-David, de notre réalité du commun. Et on est des personnes qui ont peut-être des rapports différents à la nature, aux écosystèmes, aux territoires, des visions différentes. Mais là, on recrée un espace de dialogue pour construire des choses très concrètes. Alors, je l'ai vu notamment en Bretagne, où il y a des observatoires citoyens sur le littoral. Donc, c'est des personnes qui vont aller faire des relevés scientifiques sur l'évolution du littoral, comme l'observatoire citoyen du littoral morbihanais. Et donc, ça permet au pouvoir public de mieux comprendre comment le littoral évolue, les aménagements, etc. Ça permet aux personnes de se réapproprier leur milieu, de comprendre comment ça fonctionne et de parler avec les autres habitants de ce qui est en train d'être fait sur le littoral. Donc, vous voyez que là, on recrée un espace de discussion locale intéressant. Et je veux mentionner ici, parce que j'en discutais avec le président de l'intercommunalité, les gardiens et gardiennes de la forêt qui ont été créés à Cluny, où c'est aussi une expérience très intéressante de personnes qui vont s'impliquer dans le suivi de la forêt, dans la compréhension de son évolution. Et ça, c'est des choses qui, pour moi, sont essentielles si on veut réussir à faire face à ces conséquences du changement climatique ensemble. Parce que finalement, donc je vais finir là-dessus, ces conséquences du changement climatique qui viennent bouleverser nos conditions de vie, nos territoires. Alors aujourd'hui, on a peut-être l'impression que c'est marginal, mais ça l'est pas tant que ça. Soit on se dit que ça va venir appuyer sur nos clivages, nos différences, et que ça va créer encore plus localement. On sait très bien qu'il va le récupérer, en fait. Soit on se dit que pour faire face à des problèmes de baisse de ressources en eau, de crise de modèle comme il y a en montagne, etc., on recrée des espaces de discussion où on se parle, on essaie de comprendre ce qui se passe, on essaie de trouver des solutions ensemble. Et je pense un peu que c'est la seule voie. Et moi, j'ai essayé plutôt de mettre en avant des initiatives qui allaient dans ce sens-là pour essayer d'encourager ce format.
Merci. Et donc, on va...
pour les trois intervenants.
On va prendre les questions. Alors, il y en a plein. J'en vois. Voilà, j'ai juste demandé peut-être de faire court parce qu'on est nombreux. Mais voilà, il y a Lucille Schmitt d'abord, et puis je monterai dans l'ordre.
Pardon, je ne sais pas si vous me voyez bien. Oui, moi, merci beaucoup, c'était assez passionnant. Et surtout, vous étiez très complémentaires. Donc ça, ça me semble important à dire. Moi, je voulais juste dire une chose, c'est que quand on parle de climat et qu'on parle de nature, en tout cas, il y a deux branches, en fait, dans l'écologie, et ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que je pense que sur la question climatique, il y a un langage qui est souvent un langage plus technique, qui est un langage, en fait, qui relève de la question énergétique. Et que quand on parle de nature, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux modes de négociation différents sur le climat et sur la nature, et que quand on parle de nature, il y a une reconnaissance des savoirs vernaculaires, il y a une question de prise en compte du systémique qui est souvent beaucoup plus, qui est plus naturelle, si je puis dire, que quand on parle de climat. Et ce qui était intéressant dans ce que disait Marie-Hélène, c'est que tu associais ce qu'on parle quand on parle de climat et des solutions sur la nature, ce qui est assez neuf, puisque je rappelle qu'au sommet de Rio, il y a eu deux conventions différentes, l'une sur le climat, l'autre sur la nature, l'autre sur la diversité biologique. Et du coup, ce qui me semble important, c'est plus une réaction par rapport à ce que vous dites, c'est qu'à mesure qu'on entre dans le dur de la transition, l'antagonisme avec la nature est ressuscité. Vous avez peu parlé d'agriculture, sauf Jean-David. On voit bien qu'aujourd'hui, au fond, ce qu'on oppose, c'est agriculture et nature, puisque le grand combat... Non, mais tu diras ce que tu veux après, mais je termine. Le grand combat, c'est quand même, enfin, qui est monté en épingle sur le plan politique, c'est l'idée que le sort des agriculteurs s'oppose d'une certaine manière à la préservation de la nature. Donc ça, ça me semble un point intéressant sur lequel j'aimerais vous entendre. Et du coup, ce que tu disais, un peu contre les soulèvements de la terre, avec l'idée qu'on ne peut pas prétendre représenter à soi seul la nature, c'est intéressant parce que, par rapport à ce que disait Jean-Claude sur... Est-ce que terre ne doit pas remplacer nature, etc. Il y a en tout cas dans les soulèvements de la terre quelque chose qui n'avait pas été anticipé sur le fait que l'activisme aujourd'hui, c'est plus autour du climat, c'est davantage autour de la terre. Donc d'une certaine manière, dans un concept plus englobant que ne l'était le climat, me semble-t-il. Voilà. Donc insister là-dessus. Enfin, dites-nous un peu les choses, parce que tu parlais de sédimentation, Jean-Claude, mais le dualisme et la conflictualité, ce que disait aussi Marie-Hélène, je trouve non seulement ça continue, mais je pense que ça s'accentue à l'échelle européenne. Le pacte vert, aujourd'hui, il n'est pas remis en cause sur le climat, il est remis en cause sur la nature, sur la loi de restauration de la nature. Donc, conflictualité accentuée.
Vous voulez que je prenne d'autres questions ? Oui, on prend quelques questions, puis vous pourrez répondre dans l'ordre que vous voudrez.
Oui, merci. Je vais reformuler à ma manière ce que Jean-David Abel a... Alors moi, c'est sur la bataille de l'opinion et les moyens. On l'a vu ce matin, le mot liberté, on peut plus l'employer. C'est un certain Donald qui est le champion de la liberté, y compris de la paix. Et c'est avec des centaines de milliards investis dans les réseaux sociaux, dans la fabrique de l'opinion. Et pour la nature, j'ai le sentiment que c'est à peu près la même chose. Drill, baby, drill, drill. Hein, le même Donald, et en France, on a l'équivalent maintenant qui est aux portes du pouvoir, ont accaparé la nature. Quand vous rentrez dans une pharmacie, vous êtes saisi par les médicaments, enfin les compléments alimentaires, en fait, on devrait dire, à base d'extraits naturels. Vous allez chercher toutes les plantes exotiques, elles sont là et vont vous soigner de toutes les maladies du monde. Donc la publicité et les milliards qui sont investis pour accaparer la nature, et moi je pense que la solution face à ce déferlement de puissance économique, c'est effectivement ce qui reste de nos États et de la justice, donc de faire des actions en justice. Et ce que Jean-David aussi a dit, c'est de remettre nos citoyens en conversation, en débat. Et là, on n'a pas besoin de pertinence des intellectuels ou d'intelligence qui viendrait d'en haut. On a besoin simplement de déconnecter de ces news nos concitoyens pour les remettre à faire des promenades ensemble dans la nature, mettre les écoles, les écoliers dehors. Donc il faut absolument qu'on lutte, mais avec des humains, donc par le contact, par la présence, non pas d'activistes, mais la présence de nous tous à parler avec nos autres citoyens de nature et de pratiquer la nature. Voilà.
Merci. Il y avait une troisième question.
Oui, très rapidement et qui complète l'intervention précédente. C'est une question à Jean-David Abel. Il a parlé dans ces trois points, dans ces trois conditions à mettre en œuvre. La première, c'était avoir un meilleur partage du diagnostic initial. Est-ce que vous y arrivez dans votre travail associatif à construire un partage du diagnostic quand il s'agit de biodiversité, de réduction des pesticides, etc. On avait des expériences très positives de diagnostic initial partagé à travers la Convention citoyenne, par exemple, sur le climat. Autre expérience réussie, c'était le travail à propos des déchets nucléaires, faire un diagnostic partagé, repérer les controverses, les points d'accord et les points de divergence. Est-ce que vous arrivez avec les adversaires politiques, ceux qui sont défavorables au changement, le syndicat agricole majoritaire, les LR, les RN, qui aussi ont peut-être une conscience de l'effondrement de la biodiversité, des limites de la planète et de l'urgence du temps, est-ce qu'on arrive à construire déjà un diagnostic ou pas, ou est-ce que le dialogue est même impossible uniquement sur cette partie du diagnostic?
Vous voulez répondre déjà à ces questions, c'est déjà pas mal, je pense. Je fais un petit tour, on peut en prendre d'autres.
Ah pardon. Oui et évidemment non. C'est-à-dire que ce qu'on a fait depuis des décennies, mais très nombreux, vous, nous, c'est bien sûr les associations, mais tout le monde, des gens dans l'éducation nationale, enfin, etc. Et surtout le monde scientifique. Enfin, le travail, quand moi j'étais jeune acteur, jeune militant de FNE, de la FRAPNA, en Rhône-Alpes, on avait un article, mensuel, tous les 15 jours dans Le Monde, sur une étude australienne, une étude canadienne, qu'on parle de forêt, qu'on parle d'océan, etc. Aujourd'hui, c'est tous les jours. Si vous voulez, on est depuis des décennies dans le fait de documenter de manière ultra précise ce qui se passe avec la désertification, avec les pollutions chimiques, avec les océans, etc. etc. Donc ce travail-là, avec une évolution à la fois politique, ça c'est aussi l'écologie en politique, reprise plus ou moins bien, mais en tout cas, dont toute une série de partis n'ont plus pu faire comme s'il ne se passait rien, et ça a été vrai, surtout on a été aidé au niveau européen, au niveau français, c'est évident que la droite, malheureusement il y en avait encore quelques-uns, il y a 10-15 ans, qui portaient une certaine vision de l'écologie qui n'était pas du tout la nôtre, mais qui voilà. Donc ça a pénétré, ça a travaillé, les médias l'ont repris, on a fait des pages entières, on a fait des magazines, on a fait des etc. etc. Vous voyez tout ça. Et c'est au moment, ce qui vient d'être décrit là avec les États-Unis, c'est au moment où, ce qu'on pourrait dire, je suis un peu vieux moi, on a vraiment gagné cette bataille culturelle sur le fait de dire que non, c'est pas des choses exotiques, on s'occupe pas juste des abeilles et des papillons, on s'occupe de l'habitabilité de la Terre de longue durée et pour tous les humains et pour tout le reste du vivant, et on parle pas, etc. etc. On n'est pas en train de faire de la poésie, on n'est pas des bisounours, etc. Donc au moment même où tout ça est fondé, regardé, travaillé par des conventions internationales avec de plus en plus, avec des scientifiques qui s'engagent de façon énorme, parce qu'eux aussi ils n'en peuvent plus. Il y a seulement 15-20 ans, ils sortaient des productions, ils allaient à France Culture ou à France 2. Maintenant, ils signent des tribunes, ils écrivent, ils font des manifestes, etc. etc. Et c'est ce moment-là où on a ce retour qui n'est pas juste le backlash français-européen, sur le fond même de quoi on parle. De la réalité, est-ce qu'il peut y avoir des discours totalement ascientifiques qui arrivent à être repris, pas seulement sur les réseaux sociaux, mais dans suffisamment de médias et par suffisamment de responsables politiques rationnels, propres sur eux, pour que les gens se disent « Ah ben oui, finalement, c'est pas si vrai, tout ça, etc. etc. » Donc, d'un côté, je pense que... Et c'est pour ça qu'on a des études d'opinion qui sont complètement contradictoires, c'est-à-dire que les gens savent que ça merde, pour dire vite, et que ça va merder vite. Les gens pensent que voilà, et que c'est les questions effectivement de biodiversité. Il n'y a pas que le climat, il y a beaucoup d'autres questions, l'alimentation, la santé, etc., etc. Donc c'est des préoccupations très fortes dans les études d'opinion un peu fines. C'est vraiment très fort. Et en même temps, on reste dans l'écume sur, j'en sais rien moi. Est-ce que c'est bien sûr l'emploi, le chômage, la sécurité, etc., etc. Et donc on est encore dans cette bataille avec la difficulté aujourd'hui que, moi ça fait des années que je pense que quelque part c'est au niveau du système médiatique que parce que il y a absolument aucune démocratie possible sans avoir des choses qui soient un minimum
organisées, normées, etc., etc. C'est pas l'ARCOM, hein, c'est vraiment des choses beaucoup plus pratiques que ça, voilà. Et donc par rapport à ça, moi ce que j'expliquais tout à l'heure, et je vais m'arrêter parce que je suis trop long, c'est justement que quand on part sur des sujets concrets, sur une forêt, sur une espèce, sur un conflit avec le loup, avec les éleveurs, les bergers, etc., on arrive à faire des choses super intéressantes. Indépendamment, bien sûr, de ce que la FNO, la FNSEA font au niveau national pour flinguer plus de loups. Mais dans le travail culturel et dans le cheminement par rapport à il y a 10, 15 ans, on a gagné. On a gagné beaucoup de choses, vous voyez. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment est-ce que, nœud par nœud, la bataille des bassines, c'est exactement ça. Les castors, c'est encore un peu autre chose parce que les contrats de rivière existent depuis 40 ans. Le reméandrage des rivières, le fait de laisser la libre évolution des rivières, c'est plus ancien. Puis il n'y a pas encore des castors partout. Mais ce que je veux dire, c'est que, essayons peut-être de nous astreindre sur des objets plus circonscrits, plus précis, et qui sont bon, pour nous beaucoup évidemment dans la biodiversité, les écosystèmes, etc. mais qui peuvent être toutes les questions de pêche avec les pêcheurs professionnels, pas les pêcheurs industriels, mais les pêcheurs. C'est juste ça que je voulais dire hein, quand tu disais agriculture contre biodiversité. Moi, c'est une certaine agriculture. En France, il y a déjà des milliers, des dizaines de milliers d'agriculteurs qui font une agriculture totalement compatible avec l'ensemble de etc., etc. Donc attention, parce que on se heurte beaucoup à cette représentation nationale, à ce qui est beaucoup dans les médias, mais les pratiques et les connaissances, y compris à l'INRA et partout, on les a déjà pour faire autrement, quoi.
Alors oui, il y a encore quelques autres questions, mais juste peut-être passer à Jean-Claude, parce que moi en entendant tout ça, on a beaucoup parlé en fait de conflits politiques, de conflits idéologiques. Tout en disant aussi, ça me rappelle, c'est pas du tout par rapport uniquement à ce qui s'est dit là, mais aux rencontres depuis le début, tout en disant, mais il faut des objets concrets, il faut de la pratique et plus seulement théoriser. Oui, mais enfin, il y a aussi un problème de conceptualisation politique. Et justement, je trouve qu'on est dans un truc comme ça, où à la fois, on a le sentiment qu'il y a déjà toute la connaissance et qu'il faut faire des objets pratiques, voire des combats. Et d'un autre côté, que la lutte, elle est aussi encore idéologique sur des concepts, en fait. Je sais pas si Jean-Claude, ça te...
Oui, oui. Bon, je vous repasserai le micro. Oui. Certainement, oui. Non, mais il y a ces niveaux. Je crois qu'on parle beaucoup, en fait, dans ces rencontres et dans cette table ronde en particulier, des niveaux à la fois de conceptualisation, d'action, éventuellement d'aller-retour hein, entre les terrains et les notions, les concepts, peut-être les mots d'ordre, ce qui est autre chose. Hein, peut-être il ne faut peut-être pas trop se focaliser sur les mots d'ordre, ce mot d'ordre de la ZAD, peut-être qu'il crispe plutôt qu'il ouvre des voies peut-être d'entente. Donc, mais effectivement, j'ai l'impression, et j'étais intéressé, Lucine, ce que tu as dit sur le fait qu'on voit qu'il y a aussi toute une démarche plutôt par le haut et plutôt technique, scientifique autour du climat, et aujourd'hui un registre beaucoup plus activiste, beaucoup plus peut-être aussi porté par d'autres générations, des questions de génération, des questions aussi de jeunes qui ont grandi avec l'idée de l'urgence écologique, et l'urgence écologique induisant un mode d'action peut-être plus offensif, plus radical, en disant on n'a pas le temps en fait de se contenter de solutions techniques discutées dans des aéropages loin, et il faut alerter, il faut aussi produire des actions éclatantes, il faut produire des prises de conscience, avec peut-être toute l'ambivalence hein, des effets. Je pense que c'est à la fois juste, et il y a le risque de produire un effet inverse qui est un effet clivant. Et là, il faut, je pense, mais on ne peut pas rejeter, on peut dire aux jeunes, calmez-vous, allez rentrer chez vous, etc. Ce serait vraiment d'un paternalisme absolu. Et nous, on sait, parce qu'on fait des aéropages citoyens, etc., on discute. Donc, non, il y a une urgence qui fait qu'il y a aussi une intensification des modes d'action, une intensification peut-être de la conflictualité. Le risque, je pense, c'est, ça ressort des interventions, c'est le gap complet, c'est-à-dire l'idée qu'il y aurait une avancée avant-garde éclairée, mobilisée, et puis une population qui est abreuvée par les médias mainstream et qui va se décrocher tout en ayant conscience des problèmes, mais en refusant de la moindre transformation politique ou la moindre transformation des modes de vie, et avec un gap qui irait se creusant. Donc je pense qu'il y a aussi sûrement place pour, alors esprit est un peu, c'est une vieille culture d'esprit, on essaie de trouver des médiations, de trouver des formes de représentation, de démultiplier les formes de représentation, de démultiplier les foyers de discussion, de faire en sorte aussi d'intégrer à la discussion des gens qui ne sont pas intégrés, qui sont éventuellement étrangers aux problématiques, et de trouver comment le faire de manière effectivement très aussi quotidienne, hein. C'est-à-dire en partant de questions quotidiennes, sans doute ça marche mieux pour un certain public, mais il y a différents publics, que des spéculations plus théoriques ou plus anthropologiques sur le modèle de civilisation et sur le fait qu'il y a des mises en question assez radicales qui doivent être opérées dans ce modèle de civilisation. Et c'est aussi ce que tu rappelais, Lucille, mais c'est vrai que l'écologie, d'ailleurs celle de Gorce aussi, mais c'est, qui part plutôt des relations interhumaines, ou celle de Scola, etc., ce sont des gens qui partent de cette question des savoirs aussi, des savoirs inscrits dans des lieux, des savoirs vernaculaires, des savoir-faire avec les animaux, avec tels animaux, des savoir-faire avec telle plante, en pharmacopée, et tout ça fait partie d'un registre qui n'est pas peut-être écologiste stricto sensu, mais qui est aussi le point de départ en fait d'une thématisation et d'une forme peut-être d'alliance qui passe pas ici par les concepts, mais qui part vraiment des pratiques et des modes de vie.
Oui, Marie-Hélène, et puis après j'ai déjà une ou deux questions notées.
Ça va répondre un peu à la question qui était sur l'agriculture. Moi, je m'y suis intéressée dans mon livre, mais comme par exemple sur l'eau, en pouvant pas, ce serait un livre en soi. Ce qui quand même m'a intéressée dans les initiatives qui existent sur l'agriculture et qui justement font alliance. Alors, je vais en parler de deux. Il y a sans doute que certains l'ont vu, un super documentaire, Le village qui plantait des arbres, qui a été fait et qui raconte comment une communauté de communes a mis des moyens pour accompagner les agriculteurs sur la plantation de haies, et donc vraiment de l'accompagnement fin sur le choix des haies, sur derrière le suivi aussi et l'entretien des haies, parce que c'est quand même le gros problème, et la possibilité de déléguer cet entretien, parce qu'en fait souvent on met des normes pour planter des haies, mais les agriculteurs, on leur rajoute un travail supplémentaire qu'ils avaient enlevé aussi avant. Donc c'est assez intéressant, parce que là on crée une forme de solidarité locale qui je trouve permet de faire cette alliance. Et l'autre exemple, c'est un dialogue territorial qui a été fait dans le parc naturel régional du Pilat sur l'adaptation de l'agriculture, où là aussi ils se sont réunis entre acteurs locaux pour travailler sur cette question. Et pourquoi je parle de ces deux expériences, c'est que ça montre que en fait, ce qu'il y a derrière ça, c'est est-ce qu'on continue à considérer l'agriculture uniquement comme une activité de production qui vise à produire, ou est-ce qu'on se dit que c'est une activité qui a... Enfin, il y a plusieurs activités, en fait, dans l'agriculture, et notamment ce rôle auprès des milieux. Et si, du coup, on valide que l'agriculture est plus seulement une activité de production de nourriture, à ce moment-là, de quels moyens se dote la société pour qu'on puisse rentrer justement dans ces autres fonctions pour former, accompagner, entraider. Et donc c'est là que justement ça montre que l'adaptation est bien une transformation de société. Et c'est pour ça que j'ai amené ce terme de métamorphose pour pouvoir le signifier. Il y a un film super qui est La théorie du boxeur. Sur l'adaptation de l'agriculture qui dans la Drôme, et qui montre justement, je le trouve super parce qu'il donne la parole à tous les agriculteurs quels qu'ils soient, il montre que tous traversent des réalités qui sont communes et qu'en fait ils ont plutôt envie de les partager et d'être aidés et accompagnés et que la société soit à leur côté en fait de s'opposer, mais il faut du coup construire des espaces et des modalités pour que ça se fasse, quoi, et pour qu'on n'ait pas ces oppositions.
Merci. Donc, on va prendre des questions dans cet ordre.
Merci. Oui, moi, je m'interroge suite à vos interventions tout à fait intéressantes, parce que je trouve que je suis coprésident de FNE Paris et il y a beaucoup d'actions, mais sur les thèmes, effectivement, très souvent, de biodiversité, environnementale. Mais dès qu'on dit « mais c'est dans quel cadre systémique », alors là, c'est fini. C'est-à-dire que le social, ah non, surtout pas. la ville pour tous, ce n'est pas notre problème. Et alors, il y a beaucoup d'actions. Et c'est là que je pense que s'il n'y a pas ce travail intellectuel de recréer un projet, mais un vrai projet de société, une vision du vivre ensemble, ça ne sert à rien d'agir, parce que c'est de l'action. Enfin, il y en a d'autres qui le font, hein. Et de ce point de vue-là, moi, je me méfie beaucoup. C'est ce que fait le RN, qui travaille sur ces questions-là, et qui a une écologie qui... Alors, c'est pas l'écologie politique, évidemment, mais qui a un vrai discours et qui risque de faire des ravages si on n'est pas capable de lier, effectivement, des actions de terrain indispensables, c'est vrai, mais avec une cohérence globale, systémique, qui n'a rien à voir avec ce qu'il nous propose.
Je me dépêche, je commence juste par dire que je ne sais pas pourquoi, mais je suis très en colère à la sortie de cette conférence. Mais je ne saurais pas trop formuler pourquoi. En tout cas, je vais y réfléchir. Il y a certainement des choses qui m'ont gênée, mais je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je suis très contente d'être ici. Peut-être que c'est parce que ça me bouscule un peu, ou en allant sur le thème des alliances, je m'attendais peut-être à retrouver un entre-soi qui est plutôt le mien, peut-être de militante, de l'éducation populaire et de choses comme ça. Néanmoins, il y a une question qui m'occupe, c'est que on n'a pas du tout parlé de la notion d'attachement, qui est peut-être là aussi dans mes domaines dans mes bassins. Néanmoins, il me semble que c'est vraiment une question essentiel pour parler d'alliance. Et dans la suite de ce que disait monsieur, et pour éviter de faire des conflits entre la science, la recherche, les intellectuels et puis les militants qui veulent tout casser en extrapolant, je pense qu'en fait la dimension importante, c'est l'intermédiation, et que c'est là qu'il y a une vraie clé. C'est qu'en fait, quand vous parlez des expériences concrètes, moi j'ai beaucoup travaillé dans le Morvan. Je vous invite à y aller, il y a des expériences autour de Bibract, qui en plus est une institution. Oh bah super. Et je vous invite tous d'ailleurs à aller regarder ce qui s'y passe, parce que c'est à la fois à partir des savoirs vernaculaires des habitants sur une pratique, sur une fabrique sociale orale, sur de la collecte de mémoire sociale, ensuite sur une recherche-action déployée, alors pas avec les bons moyens certainement, mais une recherche-action qui inclut effectivement des habitants, effectivement des chercheurs, mais aussi des élus locaux et des institutions comme le parc, etc. Bah, il se passe des trucs de fou. À la fin de 2 ans de recherche, il y a une maison des associations libres pour des syndicats d'associations libres pour la gestion de l'eau. Et en fait, ça part d'attachements concrets des gens à leur paysage, aux ressources, aux conflits autour de la forêt, parce qu'il y a les bûcherons, parce que il y a les agriculteurs, parce que voilà. Mais en fait, je pense que la vraie donnée, c'est l'intermédiation, quoi. Il faut qu'on arrête de se prendre la tête, et il faut qu'on trouve comment se parler entre intellectuels, activistes, chercheurs. Enfin, faut qu'on trouve comment faire, quoi.
Ouais, moi ça va être très court. J'ai été surpris de pas entendre le mot décroissance dans tout ce qui a été dit. Et je voulais simplement comment vous pourriez m'expliquer qu'on peut concevoir une alliance avec la nature alors que tous les programmes politiques qui nous sont proposés, que ce soit à droite comme à gauche, sont basés sur des croissances économiques. Et moi, j'associe croissance économique à un pillage supplémentaire de la nature. Je me trompe peut-être. Et donc, assez bêtement, pour moi, l'alliance avec la nature, elle se fera uniquement à partir du moment où on acceptera une certaine réduction ou une diminution de notre niveau de vie, et de revenir à un mode de consommation un petit peu plus raisonné. Voilà.
Alors, on va avoir, je suis désolé, voilà, des réponses très très courtes, et puis on va finir ce qu'on doit vraiment finir à l'heure pour libérer la salle. Mais Aline, tu veux un dernier mot? Allez, vraiment très bref, et puis après...
Très rapidement, je ne voudrais pas du tout casser l'ambiance, mais je vais peut-être dire quelque chose qui est évident pour vous. C'est peut-être parce que j'habite en Saône-et-Loire, mais on a quand même affaire, dans le modèle systémique général, à une situation où le modèle dominant de la production agricole et de tout ce que ça implique dans l'ensemble du tissu économique et social est porté par des forces économiques et financières énormes et politiques. Et on a bien vu la gestion. J'ai vu que Marine Le Pen était invitée au salon de l'élevage dans le Limousin. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc il y a là des réseaux extrêmement forts. Alors j'entends tout ce qui est dit sur la richesse des alternatives et des diverses études, mais je pense en effet que cette question des alliances, elle est essentielle. Et localement, et sur le terrain, et dans les territoires, avec tous les acteurs. je vais pas tous les citer, on a cité les pêcheurs, il y a plein de gens, mais aussi au plan national, je pense qu'il faut qu'on... Enfin, moi, il me semble qu'il y a urgence.
Bon, si vous voulez, voilà, une phrase, vous avez le micro là. Mais
une phrase, c'est impossible. Non, mais la question, c'est que moi, là, on était sur l'alliance, et donc moi, je n'ai pas traduit au niveau politique qu'est-ce que ça veut dire. Mais évidemment, il faut passer de l'un à l'autre, et de ces travaux, et de ces alliances, et de ces expériences, pour passer dans de l'action politique et de l'agir politique différent. Je voulais juste répondre sur l'attachement. Moi, je pense que c'est fondamental. Moi, toutes les choses que j'ai vues réussies, on est parti des différences, on est parti des différents attachements, et à partir de là, en prenant tout le monde au sérieux, avec... Je ne sais pas si c'est un gros mot, de parler d'empathie, de parler d'écoute, de parler voilà, avec la médiation ou avec des élus, ou avec etc. Et on arrive à des choses concrètes, effectives, positives. Mais c'est juste le dernier truc que je veux dire. Attention au récit. Il y a beaucoup plus dans les médias, dans les documentaires, dans les trucs, de choses sur les bagarres, sur les luttes, etc. Alors qu'il y a d'une part beaucoup de choses qui existent, qui avancent, et qui produisent des choses géniales et dont on ne parle pas du tout. Et il y a aussi beaucoup de luttes gagnées, et moi je le vois surtout au niveau des contentieux, parce que nous on n'en rabat de rien sur le fait de défendre les milieux, etc. etc. Et par les, enfin, si je vous dis des infrastructures, les bassines, Tony Parker, Pierre et Vacances, Center Park et tout, c'est les associations qui gagnent ça. Je m'excuse de vous le dire, et je vais peut-être fâcher des gens, mais c'est pas les cocktails Molotov qui, ils ont fait le spectacle de la lutte. Mais la réalité du gain, 2 ans, 3 ans après, ce n'est que du juridique avec des arguments scientifiques, rationnels, dont Magali, dont Florence Abed, c'est tout le monde. Mais vous voyez, voilà, hein, attention, là on est vachement sur l'écume et il y a beaucoup de récits, beaucoup de choses médiatiques parce que les journalistes adorent ça, c'est manichéen, c'est les écolos contre les agriculteurs. Attention, il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans la société.
Merci. Oui, non, un mot, c'est pour... la dernière question, moi effectivement je pense qu'il y a quelque chose qui est très menaçant et qui nous pend au nez, c'est une autre alliance. C'est l'union des droites. C'est l'union des droites qui est activement préparée par des grands médias, par des forces politiques, peut-être par le plus haut niveau de l'État où on a l'impression qu'une alliance avec le RN était plus envisageable qu'un Premier ministre de gauche. Et donc là il y a quelque chose qui est l'urgence politique du moment, hein. C'est comment combattre ce qui est quand même le front politique qui sera le plus défavorable à tout ce qu'on est en train de raconter. Donc là, je pense qu'il faut une contre-alliance de ce point de vue-là assez urgente.
Marie-Hélène, tu veux dire un mot pour
finir ? Et effectivement, la question de l'attachement, pour moi, là où l'adaptation est intéressante, c'est qu'elle peut nous ramener, et c'est l'expérience de Bibract, à qu'est-ce qu'on veut préserver justement ? Qu'est-ce qui nous lie ? Qu'est-ce qui fait commun en fait ? Et cette question de l'eau, elle en fait partie. Donc soit on prend cette question de l'adaptation là comme une occasion de repartir de ça, et il faut des personnes, je suis complètement d'accord, pour faire cette médiation, en sachant qu'on a des institutions qui en plus sont fragilisées. Donc il faut quand même des élus qui aient le courage, des modalités, etc. Mais je pense que si on n'en parle pas des choses bien qui se font, effectivement, il n'y a pas de modèle non plus. Donc c'est pour ça que moi, j'ai vraiment essayé dans mon livre de mettre en avant ça, parce que sur l'adaptation, on n'est qu'au début de ces sujets-là, et si on ne parle pas de comment bien faire, on n'y arrivera pas. Et après, il ne faut pas opposer, je pense, le local et le national. Et effectivement, on n'arrivera pas à s'adapter au niveau local, même si c'est nécessaire de le faire à cette échelle-là, s'il n'y a pas de vision de long terme au niveau national, s'il n'y a pas avant une atténuation qui nous permet de nous adapter un minimum, et donc une économie, etc. Tout est lié, évidemment.
Merci beaucoup pour ce débat et cette discussion, et je remercie aussi la salle.